Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, voici la rediffusion du Libre Journal de Serge de Bekech d'hier soir, puisqu'il est 2h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 décembre 2000 de 8h à 21h. On parle de pourquoi de 8h ? Qu'est-ce que c'est ça ? De 18h à 21h, vous aviez tous compris, en différé jeudi 21 décembre 2000, dans la nuit de 2h à 5h, ça y est, c'est le fou rire, pardon, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
On avait cru qu'on le laisserait deux fois, voire trois, c'est raté. Amis de la Résistance, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez? Ah, dites-nous, vous avez saboté le canon. Alors là, je vous signale que ce que vous avez fait...
Qu'est-ce que j'ai fait?
Votre introduction de l'émission. Vous savez que c'est le seul moment sacré de cette émission. C'est comme le canon de la messe. Vous n'avez pas le droit d'en changer, ça y est.
Mais j'en ai pas changé
un traître mot.
J'en ai pas changé un traître mot. Comment? Je me suis reprise.
Vous êtes interrompu. Vous avez lancé les 8h à 21h. Comment ça, 8h?
Toute la journée.
N'importe quoi.
L'émission de Serge de Bekech de 8h à 21h, vous vous rendez compte?
Ça, c'est pour le coup que la radio, elle s'arrête tout de suite. Alors, ce soir, je reçois le père Arouache. Bonsoir, mon père.
Bonsoir, Serge.
Le père Olindre.
Bonsoir.
Bonsoir, Roger.
Mon fils, on dit.
Guillaume Luit, qui parlera en fin d'émission. Et puis, bonsoir, Guillaume.
Bonsoir, Serge.
Alexandre Chabanis, au téléphone. Qui est-ce qui est content, Victoria?
Tous les auditeurs sont dans l'enchantement avec moi.
Et puis Martin Pelletier qui passera sans doute. Je sais pas, il a dit qu'il ferait peut-être un petit bonjour au passage. Il y a notre trésorier qui est dans le... Dans notre, alors là, il faut rien toucher, un abîmer rien surtout, parce que... Bien, alors mon père, je vous avais invité, c'est ça, oui, je vous avais invité, il y a quoi, 3 semaines, 15 jours?
Il y a 3 semaines, je crois.
3 semaines.
Ça fait peut-être un mois maintenant.
Tant que ça, comme le temps
passe. Ça passe très vite,
oh là,
le temps,
tout,
s'en va le temps.
Mon pauvre monsieur, on n'a plus les saisons qu'on avait, et le temps passe vite. Plus on vieillit, et plus le temps passe vite, vous avez remarqué, enfin vous vieillissez pas, mais moi je peux vous le dire. Alors... Ces choses-là, définitives étant dites, vous étiez venu nous parler d'un projet que vous caressiez d'acquérir pour les scouts d'Oriomont et pour les scouts en général
un village.
Propriété, un village
un
abandonné.
Petit village breton abandonné il y a 30 ans. J'y suis passé avec beaucoup d'émotion avant-hier. C'est assez extraordinaire. D'abord, le manoir a été complètement anéanti par les flammes. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il a été brûlé un 14 juillet, il y a 4 ans, par des jeunes.
Des jeunes.
Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu sinistre quand on voit ce château. Puis en même temps, on devine toute la vie de ces 9 ou 10 maisons. Certaines ont encore leur toit, d'autres sont... C'est complètement ruiné, c'est envahi par les ronces. On a l'impression d'une ville qui s'est arrêtée, il s'est passé quelque chose, et il n'y a plus les toitures, les murs sont là. Et puis alors, cette végétation qui arrive de partout, on est dans une sorte de pays perdu, et c'est tout à fait un signe de piste. Pour une aventure scout, on a l'impression qu'on rentre dans un signe de piste, car depuis 30 ans, tout est libre. Il y a quelques moutons, c'est très curieux, ils sont 12, un peu comme les apôtres. Ils sont là au milieu, ils tournent.
Il faut savoir lequel va trahir.
Oh, je pense pas qu'il y aura un traître. Je pense
les
pas.
Moutons.
Non, mais même dans les moutons, on ne sait jamais. Hein.
Ah oui, justement. Enfin, vous mourrez pas de faim, c'est ça déjà qui est sûr.
Ils ne sont pas nous, les moutons. Bon, on nous les donnera peut-être si on achète.
Bien sûr.
Ouais.
Je suis sûr. Alors, où en êtes-vous? Parce qu'il fallait quand même des sous. Là.
Alors,
vous aviez lancé un appel, il fallait 400 personnes qui donnaient 5000 francs ou 500 personnes qui donnaient 4000 ou 2000 qui donnaient 1000 ou 1000 qui donnaient 2000.
Voilà, enfin, vous avez tout compris. Hein. Les gens disent, ah oui, mais 4000, c'est une grosse somme, vous auriez dû demander moins. Enfin, effectivement, il faut donner des barrières. Puis, il y a toujours des gens qui disent ce que vous devez faire. Et moi, je ne peux pas dire exactement ce que le bon Dieu veut, j'essaie. Je voudrais être un canal de la Providence et dire ce qu'il faut dire. Mais on ne peut pas tout dire, non. On a quelques minutes simplement. Et c'est vrai que j'ai reçu des lettres, j'ai reçu environ 50 lettres, magnifiques, mais incroyables, de gens qui pensent que c'est possible de sauver ce village pour le scoutisme. Et des lettres où on me dit, allez-y, foncez, on est derrière vous, il faut réussir.
Des lettres chargées ou... Parce que c'est quand même... C'est bien d'envoyer des lettres en disant, allez-y,
En général, c'est de 4 000 à 10 000 les dons.
Ah, c'est bien.
Oui. C'est magnifique, c'est superbe. Puis j'ai des promesses. J'ai pas encore fait de tract couleur. C'est vrai. Le jour où je vais faire quelque chose, où on verra un petit peu la Bretagne avec un insigne scout au milieu de la Bretagne. Alors tout le monde me dit où est-ce que ça se trouve. Je peux pas donner l'endroit. Je peux pas donner l'endroit.
C'est un lourd secret de famille.
Ouais, c'est un secret. C'est un secret.
On peut pas le dire parce que naturellement la racaille des promoteurs et ils vont essayer de se jeter là-dessus.
Je ne sais pas.
Il ne vaut pas.
Oui. J'espère.
C'est dans un bel endroit. Voilà.
Je suis dans l'espérance. Et puis alors surtout, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors certains disent, mais vous allez quitter Riomont? Vous allez vendre Riomont? Pas du tout. Il n'est pas question. Il s'agit des camps. Et je viens de voir, dans mes pérégrinations, je suis passé quelque part, et on m'a montré un rapport de la jeunesse et des sports d'une colonie de vacances à la suite d'une inspection de cet été. Alors, ça commence bien. Impression très mauvaise, dit l'inspecteur. Atmosphère religieuse lourde, pesante.
En parlant
camps.
Religieuse pesante, oui.
Atmosphère religieuse pesante, donc c'est de la même famille de pensée que Riomont, évidemment. Et puis, alors, le clou, c'est le voyage à Saint-Cyr n'était pas utile, on aurait mieux fait d'envoyer les enfants visiter un musée. comme s'il n'y avait pas un musée extraordinaire à Saint-Cyr, et chargé, tous les objets sont chargés d'émotions. En particulier, il y a cette croix de promesse d'un officier qui est tombé en Indochine, et à chaque fois que je vais à Saint-Cyr, je reste quelques minutes prier devant cette croix de promesse qui symbolise le sacrifice de tous les scouts qui sont morts en Indochine.
Mais ça aurait mieux fait de les emmener en boîte de nuit pour faire du rap.
Alors voilà, donc le combat est réel. Il s'agit d'inspecteurs de la jeunesse et des sports qui veulent nous éradiquer, qui veulent nous détruire. Alors comment vont se passer les prochains camps? On ne le sait pas, puisque nous, on nous indique les campings aménagés et les centres agréés.
Mais si vous avez cette propriété, si vous la transformez en camp, ils vont se faire dorer, les inspecteurs, là, parce que vous ne les laissez pas entrer, vous êtes chez vous, ils n'ont aucun titre à entrer.
Ah, si,
partout. Comment, partout. Mais d'où, quel droit?
Ah, mais c'est... Ils viennent de la même façon. C'est comme des commissaires politiques. Ouais. Un commissaire politique, il fait son travail partout. Il rentre partout. Et c'est ce qui est terrible. Alors, ce que je voudrais, c'est faire un centre agréé, mais j'aurai pas le temps de le faire pour cet été, à moins que les dons affluent par milliers. Et alors, je vais faire des douches extraordinaires. Alors, je vais faire des lavabos.
Bon, les enfants, faut pas qu'ils se douchent trop. C'est pas bon d'être trop.
Non, mais
ça abîme la peau.
Mais bien sûr. Mais il faut faire ça pour l'inspection. Donc, il faut quand même que je fasse ça.
Est-ce que vous avez le droit, vous, d'aller inspecter l'inspecteur pour savoir s'il se douche aussi?
Alors,
parce que quand vous voyez la tronche de certains de ces...
Non, ce qu'il y a...
De certains de ces types, vous dites que la douche et eux, ils doivent pas souvent passer par la même porte.
C'est vrai qu'on a un langage très libre avec eux. Et qu'on leur dit carrément ce qu'on pense. Et je crois que c'est ça qui nous sauve pour l'instant. Pour combien de temps, on ne le sait pas. Mais on a un langage très libre. En disant, mais vous dites ceci, voilà, pour telle ou telle raison, et nous ne sommes pas d'accord. Nous tenons à vous le dire. Donc ce langage, pour l'instant, nous sauve. Parce qu'il y a eu tellement de camps qui ont fermé, mais parce qu'ils sont terrorisés. C'est le terrorisme qui fait que le scoutisme actuellement, eh bien, tient. Il tient encore un petit peu, mais pour combien de temps? Puisque c'est le seul mouvement qui est dans la ligne de mire actuellement de Marie-Georges Buffet. Hein. Elle veut détruire ce scoutisme de tradition. Elle ruse, elle attend le moment. Mais je sais très bien qu'il y a des projets au niveau du Parlement. Il y a des projets qui sont préparés pour empêcher les scouts d'Europe de camper. Ça sera peut-être pour 2001 ou 2002 ou 2003. Mais comme ils représentent énormément d'effectifs, ils vont s'attaquer aux scouts d'Europe, ça c'est sûr.
Alors, reparlez-nous plutôt de ce village-là. Alors, c'est une propriété. Vous nous avez dit 70 hectares.
Alors, il n'y a pas 70 hectares. Il y a un petit peu moins. Il y a 55 hectares d'un bloc.
Ouais.
Et il y a quelques hectares en plus. Ça doit faire 64 hectares en tout.
Ouais.
En bordure d'une rivière magnifique.
Donc ça, c'est pour les punis, là. Le petit bout qui est séparé du reste, vous en ferez un camp de concentration pour désobéissants, non?
Pas du tout, parce que pour y accéder, c'est déjà très dangereux. Parce que c'est un terrain très pentu. Et on verra, on fera sans doute des échanges, on a beaucoup, beaucoup de projets. Bon, ce qu'il faut, c'est se dire qu'il faut que les scouts de Riomont, et puis pourquoi pas d'autres groupes, fassent actuellement des camps qu'on pourrait s'échanger plus tard, des camps permanents de scoutisme pour la jeunesse française, pour la préparer aux événements futurs, parce que c'est vrai qu'on ne va pas... vers quelque chose qui sera paisible, mais vers des chamboulements. Ça, c'est vrai.
Le camp des singes, vous l'appellerez?
Je ne sais pas si j'appellerai le camp
des singes. Il ne veut pas dire comment il l'appellera. Roger Olindre, oui. le château de Neuvis, il y a cette dimension aussi.
Il est quoi?
Il y a cette dimension de centre d'accueil pour les jeunes.
Il y a tout ce qu'il faut. Ça ne nous a pas empêchés de nous faire les pires problèmes.
Ouais.
Et si l'année prochaine, je veux relancer la chose, j'espère, je veux essayer de le faire, mais le problème, je m'enfonce, répète constamment, le problème, c'est ce problème de BAFA.
Mais il n'y a
une troupe scout, d'après moi, ça n'a jamais tourné avec des gens qui ont le BAFA, parce que de toute façon, le BAFA, c'est une étiquette même pas laïque, mais c'est rien du tout. Ils le donnent dans les banlieues, ils le donnent aux
grands frères.
Oui, ils le donnent aux grands frères, mais
pour le
passé, il faut 4 à 5 000 francs. Alors, il a dit, mais pourquoi vous payez pas? Mais d'abord, moi, je paye pas les jeunes pour qu'elle ait passé le BAFA, parce que j'ai pas l'argent nécessaire. Et puis, une fois que le jeune a le BAFA, qu'est-ce qui l'oblige refuse à venir encadrer ta troupe scout, où il sera pas payé, alors que s'il va dans une colonie de vacances, il sera payé. Tout est fait.
En l'occurrence, les frères l'ont le BAFA chez vous.
Oui, alors nous, on avait 4 BAFD pour cet été, puisque je fais camper quand même 300 jeunes. J'avais des dizaines de BAFA. J'en ai même plus que prévu, Roger, de BAFA. Oui. Là où il en fallait 8, j'en avais 13. Oui. Ça n'a pas empêché.
Mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous êtes dans une propriété privée. Vous avez des jeunes que vous invitez dans cette propriété privée. Moi, si un type vient me voir, me dit je veux visiter, je dis vous barrez, vous n'avez rien à foutre chez moi, tirez-vous.
Mais c'est les inspecteurs de jeunesse et des sports, c'est les inspecteurs de la propreté, c'est les inspecteurs de... ils viennent tout contrôler.
Et tu ne demandes rien à personne.
Mais eux te demandent, tu dois déclarer ton corps.
Mais Serge, quand ils viennent, faut quand même pas oublier qu'ils viennent avec la gendarmerie, avec la police, avec les autorités.
Ils viennent avec des cars.
Alors on va nous envoyer les gardes mobiles.
Si tu leur dis allez vous faire foutre, eh bien ils ferment le camp, ils appellent les parents pour reprendre les gosses.
Je voudrais qu'on m'explique comment un système qui ne paye pas, qui ne donne pas d'argent pour que les gosses puissent partir en vacances, a un droit de regard sur la famille. Si je reçois 10 ou 15 copains de mes fils dans ma propriété de vacances, qui va venir me dire qu'il n'y a pas assez de chambres, qu'il n'y a pas assez de douches et tout? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Les commissaires politiques du gouvernement. Serge, on n'est plus dans un pays libre.
Ils vont pas être déçus.
En fait, c'est ça. On n'est plus dans un pays libre.
Non, c'est incroyable.
On n'est pas dans un pays libre.
Il faut pas l'accepter.
On l'accepte pas, puisque l'été dernier, on a dit qu'on les attendait de pied ferme. C'est ce qui nous a sauvés. Ils n'ont pas fermé les camps.
Il y a quand même aussi une chose qui est sûre et certaine, c'est que les parents sont pas tous des fanatiques qui sont prêts à se mettre derrière toi. Les parents, ils voient les gosses, ils voient les trois quarts du temps d'abord, ils ont envoyé le gosse là parce que ils savent pas où l'envoyer. Alors toi tu le prends en main et puis tu en fais un gosse comme les autres pour l'honneur, pour la patrie, tout ça. Mais rien que ça, pour l'honneur et pour la patrie, c'est interdit.
À la préfecture du coin là-bas, c'était noté que
fais chanter la Marseillaise aux enfants et envoie les couleurs le matin.
Incroyable.
Voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Mais de toute façon, ça et tout le reste, on le dit aux Français, les Français ne veulent pas le croire. Même les gens qui sont nos amis croient qu'on affabule. On n'affabule pas du tout. Moi, pour encadrer, en général, j'avais 100 gosses. Bon, il me faut 10 adultes qui ont le BAFA. Enfin, dans une troupe scout, où je vais trouver 10 adultes que je ne connais pas, qui ne fument pas, qui ne soient pas pédérastes. Parce que c'est... Non, mais ça aussi, ça paraît bizarre, mais c'est le problème crucial.
Ça doit se trouver quand même 10 adultes qui ne sont pas pédérastes.
Mais qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui n'est pas des penchants pour les enfants, qui respectent les idées politiques qui sont les tiennes sans en rajouter et sans rien enlever. C'est-à-dire des gens normaux. Mais je regrette, pour trouver 10 types normaux dans ce pays aujourd'hui, dans ce cadre-là, d'encadrement de jeunes. Bon, j'avais un type qui était arrivé, directeur de santé. Il avait des brevets, il avait de quoi tapisser la cuisine, rien qu'avec les brevets qu'il avait. Bon, je rassemble la school, la troupe, garde à vous, je vous présente notre ami qui vient pour faire un essai d'encadrement. Bon, je mets tout le monde au repos. Il dit, alors on se tutoie tous, ça vous m'appelez par moment, je m'appelle Roger. Je lui ai dit, bon, direction la sortie, que j'en avais à foutre d'un type. La première chose qu'il dit, c'est qu'il n'y aura pas de discipline, c'est qu'on est tous là, les uns sur les autres, de préférence. Bon, ensuite,
la carrière la plus courte
deux gars qui m'avaient été recommandés, parce que aussi, les gens chez nous sont bien gentils, mais enfin, ils voient pas très bien ce que c'est qu'une troupe scout traditionnelle comme avant-guerre. Bon, un type qui est... Ils sont arrivés à deux, il y en avait un qui était bourré le premier soir, hein, et le lendemain, l'autre, je me suis aperçu qu'il était pédé, j'ai viré tout ça.
C'est pour ça qu'il veut, alors, je vais vous dire, confiez plutôt vos enfants au scout de Riomont, là vous êtes tranquille.
Mon système, c'est comme celui du père, c'est que je forme mes cadres moi-même. Enfin, pour que des garçons et des filles soient formés, bon, je les prenais à 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Bon, ils commençaient... Bon, mais de toute façon, il faut les envoyer passer le BAFA. Ça coûte 4 à 5 000 balles.
Le BAFI. C'est plus facile de passer le BAFI.
Alors que les gosses que j'ai, ils en connaissent plus que ceux qui vont passer le BAFA, puisqu'ils connaissent quand même pas mal de choses.
Alors, en tout cas, ça, c'est des questions qui se posent pas. Le problème du BAFA n'est pas posé pour votre troupe. Et le problème du lieu, des locaux...
Le problème, c'est qu'on n'est pas agréé scout. Et puisque nous ne sommes pas agréés, nous ne sommes pas scout de France, nous ne sommes pas scout unitaire ou scout d'Europe, nous ne sommes pas scout musulman ou scouts israélites. Tous ces scoutismes sont reconnus.
Bah faites-vous scout musulman, qu'est-ce que je vous dis ?
Et voilà, donc...
C'est un truc. Bah, non, il n'a pas l'air de citer.
Mon mouvement de jeunes, les cadets de France et d'Europe, nous sommes déclarés régulièrement au ministère. Et ça dépend du Cercle national des combattants qui est déclaré au ministère des anciens combattants. Nous avons des matricules, nous avons tout. Nous sommes dans les règles les plus totales. Mais là, lorsqu'ils sont descendus, ils sont venus à 16 au château. À 16. Avec un sous-préfet. Bon, et là, lorsque c'était la commission de la jeunesse, ils étaient 6. Mais tu peux pas être derrière tous. Il y en a qui ont été traînés partout, qui ont été voir partout, qui ont fouillé partout, qui ont ouvert les pioules, qui ont ouvert les placards, qui ont ouvert... Mais c'est la Gestapo, quoi. C'est pas autre chose.
Incroyable. Incroyable. Bon, alors donc cette...
Donc la campagne continue,
oui.
Pour nous, les scouts de Riomont.
Vous acceptez même 500 francs?
Ah oui, absolument.
On n'est pas obligé d'envoyer 4000, même 200 francs.
Il y a des gens qui ont donné 100 francs et ils auront une lettre de remerciement, ils auront un reçu, et surtout, on va leur frapper une médaille magnifique, genre scoutisme résurrection, et ils auront un témoignage d'amitié, de sympathie, et surtout aussi, ce qui comptera, je crois, ce sont nos prières. Parce qu'on se rend bien compte que on tient... tous les uns les autres, c'est par la prière. Et je dis pas ça pour faire bien, parce que je suis pas catholique.
Un message qui correspond.
Non, il y a une auditrice qui dit merci d'avoir invité le père Arguel. Je n'ai pas d'argent malheureusement, mais nous avons deux saints, Saint Antoine et Saint Michel Archange. J'en ai même plus que ça maintenant. Mm. Il faut les prier. Je le fais et j'ai jamais eu de cambriolage.
Oui, bah ça c'est.
Il y a jamais personne qui vous a apporté d'argent non plus, d'ailleurs, parce qu'elle dit qu'elle n'a pas d'argent cette dame-là. Donc, pourrait y avoir des cambrioleurs qui déposeraient de l'argent chez elle.
Ah oui, c'est arrivé dernièrement qu'on nous jette un sac qui a été volé, mais il n'y avait plus d'argent dans le sac.
Ah bon.
Mais il y avait quand même tous les papiers qu'on a pu rendre. Mais c'est vrai que ceux qui m'écoutent, il y a eu 40 ou 50 bienfaiteurs la dernière fois. Il faut continuer, il faut en parler autour de vous. Et moi, nous Riomont, on est là pour les enfants, on a un message à donner, on veut continuer. Et puis, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire l'été prochain. Mais en attendant, il faut préparer l'avenir. Peut-être que l'été prochain, on ne pourra pas camper, mais dans 2 ans ou 3 ans, on pourra peut-être camper parce qu'on aura préparé l'avenir. Donc, il faut des dons à adresser aux scouts et guides de Riomont, ça c'est l'intitulé, et puis boîte postale 28 62 801, Liévin.
Et dès que là, vous avez fait une petite, un petit tract, enfin pas non, un tract, un petit document, mais c'est photocopié. Oui. Mais dès que sera prêt, vous pourrez l'envoyer.
Oui.
On le mettra probablement dans le libre journal, d'ailleurs.
Merci, Serge.
En ce qui concerne le Cercle national des combattants, déjà, je réponds à l'appel du père. On ne va pas donner de l'argent parce qu'on en cherche aussi, mais je peux déjà promettre au père, s'il peut venir avec un camion... On lui donne le nombre d'arbres nécessaires pour faire les poutres principales.
Ah, ça c'est formidable.
Les arbres, il y a déjà beaucoup d'arbres qui ont été abattus, par la tempête, abattus par nous, qu'on doit les rassembler dans quelques temps. On peut déjà donner une dizaine d'arbres, de gros arbres.
On se fait des cadeaux entre nous, alors c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez, l'adresse ?
Je voudrais qu'il rappelle doucement, parce que moi, j'ai pas eu le temps.
Victoria va envoyer des sous.
J'ai pas eu le temps de copier, alors les autres
pour les dons, au village d'enfants de Riomont, en fait, faut intituler les chèques aux scouts et guides de Riomont. L'adresse est la suivante. Mon nom, c'est le père Argoir. C'est un nom breton. A-R-G-O-U-A-R-C, apostrophe, je tiens beaucoup à l'apostrophe, H. Et village d'enfants de Riomont, BP 28, 62 801, Liévin, L-I-E-V-I-N, CEDEX.
C'est breton à avoir.
Boîte postale 28 62 801.
Ça fait un peu kabyle, vous ne trouvez pas?
Après 800.
J'ai beaucoup d'admiration pour les kabyles,
bah oui,
c'est pas
aussi,
du tout.
Oui.
Il y en
a un grand quand même.
Tais-toi, Dick.
Ah, pardon.
Boîte postale 28 62 801, Liévin, CEDEX.
Oui. Liévin, CEDEX. L-I-E.
Et il n'y a pas autre chose après CEDEX. Bon.
Non.
Il n'y a qu'un CEDEX à Liévin. C'est une ville qui est tellement.
Liévin, c'est dans les mines, c'est tout près de Lens, où il y a une très grande équipe de football. Je sais que Serge n'aime pas trop le football, c'est pour ça que je dis. Mais il porte le maillot sang et or, qui est aussi la couleur des foulards, des scouts de
Riévin.
Même
que j'ai un cousin qui a été président du club de Lens.
Qu'est-ce que c'est intéressant tout ça.
C'est passionnant.
J'y pense parce que je vais oublier. Ce soir devait venir Jacqueline, qui devait nous parler de la vie des Gaulois, et je lui ai demandé, étant donné les circonstances, de reporter cette émission au 24 janvier, ce qu'il a accepté très gentiment. Je l'en remercie. Et donc,
Il a laissé la place pour moi.
Il a laissé la place pour moi.
Oui, je le remercie beaucoup.
C'est un type très très bien, Jacques. Alors, en revanche, il m'a demandé donc de signaler que cette émission aura lieu le 24 janvier et que les prochaines réunions du Cercle Gaulois auront lieu les mardis 9 et 23 janvier au Lutès, 8 boulevard Saint-Michel, métro Saint-Michel, à 18h30 au premier étage. Voilà. Alors, merci mon père. Donc, on a l'adresse, on a tout, on a les sommes à envoyer, tout ça. Et puis, on a la promesse que dès que le document photographique est prêt, vous le ferez parvenir à qui vous en fera la demande. Et vous verrez, c'est vraiment un endroit... Enfin, les photographies sont éblouissantes de beauté. C'est un endroit incroyable avec... des chemins creux, des sous-bois.
Il n'y a pas de route pour arriver au village.
Voilà,
il n'y a que des chemins.
Ouais.
C'est curieux. En plein champ, vous avez le village.
C'est un très bel endroit. Hein, Roger, toi qui regardes les photos, c'est vraiment splendide. Le père a apporté un album de photographie qui passe mal au micro, mais Roger le regarde.
Il y a un meuble breton qui est éclaté. La dernière fois, j'aurais dû reprendre les... Bon, il y a une chapelle aussi, mais elle n'est pas en vente. J'espère avoir la clé un jour. Voilà.
Voilà. Eh bien, écoutez, puisqu'une auditrice nous proposait tout à l'heure, enfin, nous conseillait tout à l'heure de faire une prière, on va laisser la parole à quelqu'un. Vous allez entendre ce texte que nous connaissons tous.
Je suis qu'un parachutiste et j'ai toujours fait mon devoir pour ma patrie. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous, mon Dieu. Car vous donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos, ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne vous demande pas la richesse ni le succès, ni même la santé. Tout ça, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce qu'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous me le donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'aurai pas toujours le temps ni le courage de vous le demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Mais donnez-moi aussi le courage et la force et la foi, s'il vous plaît, mon Dieu. Amen.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la prière du para, dont le père Argouache, d'ailleurs, a fait faire une édition, enfin, un ami du para Argouache a consacré un livre qui s'appelle
Sur la piste.
Sur la piste.
Avec l'aspirant Zirnel.
Avec l'aspirant Zirnel.
Une biographie, en fait, compte de l'aspirant qui est très peu connue.
Une petite biographie de l'aspirant Zirnel qui est l'auteur de cette prière. Et. Aujourd'hui, tout à fait d'une façon imprévue, j'ai reçu cette maquette, c'est la pré-maquette d'un disque qui a été enregistré. Ce texte a été enregistré par un parachutiste de la Légion étrangère, du premier REP qui était en Algérie, et qui aujourd'hui a voulu faire ça, et d'une façon totalement anonyme. Donc, avec un ami, ils ont préparé ce disque qui sera... sans doute achevé dans quelques semaines, quelques mois. et qui sera vendu au profit probablement des œuvres de la Légion étrangère, ou en tout cas c'est pas du tout une opération commerciale. Je trouve que ce texte est admirable, et le texte est admirable. Alors la façon dont il est dit, c'est très très très
la voix est très très belle et très profonde, très profonde.
Mais c'est pas un comédien, non. C'est un sous-officier de Légion qui...
Il croit ce qu'il dit, il a la foi.
Ouais, voilà. Et alors, cet homme a envoyé, plus exactement, la personne qui a fait l'enregistrement, me l'a envoyé en disant, voilà, le légionnaire qui a enregistré ça avait une seule ambition, c'était que ça soit diffusé sur Radio Courtoisie la nuit de Noël. Bon, comme je n'ai pas d'émission la nuit de Noël... Je vous l'ai proposé ce soir, et je trouve que ça tombe très bien, ça fait bien le lien entre ce que nous venons d'évoquer avec le père Argouarche et ce dont nous allons parler avec Roger maintenant, puisque il y a quelques semaines j'avais dit que j'envisageais de faire une brochure pour mettre les choses au point à propos de la campagne honteuse qui est entamée depuis quelques semaines, avec des complicités d'ailleurs assez inattendues. Je pense notamment au sieur Rouard du Figaro et autres lieux découverts à marée basse. Cette campagne contre l'armée française sur le sujet de la torture. Or, il se trouve que Roger Olindre et le Cercle National des Combattants avaient publié, il y a maintenant, 20 ou 25 ans, ou 30 ans, ou plus que ça, une brochure, Torture, ils ont dit torture, et que Roger a eu l'idée de la faire réimprimer. Elle est donc disponible aujourd'hui.
Rue des Entrepreneurs.
Voilà. Et elle montre bien de quoi on parle. Ce n'est évidemment pas destiné à la jeunesse, hein, je vous le signale tout de suite. Enfin, à la petite jeunesse. Il vaut mieux éviter de laisser ça entre les mains des enfants. Parce que vous allez voir la différence qu'il y a entre la torture telle qu'on accuse des soldats français de l'avoir pratiquée et la torture telle qu'elle est effectivement pratiquée, telle qu'elle a été effectivement pratiquée par les Fellagas, et telle qu'elle est aujourd'hui encore pratiquée. Je vous rappelle quand même que les gens qui accusent l'armée française d'avoir commis des actes de sauvagerie pendant la guerre d'Algérie, il y a 40 ans, en temps de guerre, aujourd'hui, en temps de paix, sont dans un pays où on peut s'introduire dans un dortoir de lycée, enfin un dortoir de pension, la nuit, est égorgé 16 adolescents qui sont dans ce dortoir. Ça s'est passé la semaine dernière en Algérie, ça. Donc, je ne suis pas tellement disposé à recevoir des leçons d'humanité de la part de gens qui sont capables de faire des choses comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est quand même un petit peu déplacé. Mais c'est pas exactement le sujet que je voulais évoquer ce soir avec Roger. La raison pour laquelle j'ai demandé à Roger Olindre de venir ce soir, c'est parce qu'il a été en Algérie à cette époque-là, parce qu'il a été soldat, et soldat, pas soldat dans les bureaux, pas soldat dans l'intendance, et pas soldat aux gamelles, soldat combattant sur le terrain, dans le Djebel et dans les rizières. Et j'aimerais qu'il me livre son sentiment sur cette affaire de la torture. La première question, c'est quel est le degré de vérité de ce qui est dit aujourd'hui à propos de la torture dans les médias. Est-ce qu'il y a une réalité de la torture, ou, comme on a dit prudemment et modestement, de la question des interrogatoires musclés?
Alors, si tu permets, j'avais préparé un petit topo, je vais essayer.
Oui, oui, bien sûr.
Pour que ce soit clair pour
les
jeunes à qui on n'a jamais appris ça, et que ça remette les idées en place pour les autres. Hein. Il est bien entendu que l'humanité n'a pas lancé cette affaire tout à fait par hasard. Hein. Et si ça a été repris par les autres journaux, dans des journaux qui se veulent de grande information, c'est pas un hasard non plus. C'est pas un hasard si constamment, et depuis des années maintenant, on nous reproche Vichy et l'Algérie. Ça n'est pas un hasard s'il y a eu le procès Papon qui permettait à certains individus de faire l'amalgame entre Vichy, l'Algérie, puisque Papon avait été en Algérie, Papon avait été à Vichy. Alors, on peut se poser la question, se la poser sérieusement, pourquoi cette haine? Cette haine vient du fait que quoi qu'ils en aient dit, l'armée française a gagné la guerre d'Algérie. Elle a gagné sur le terrain. L'armée française a perdu politiquement, mais elle a gagné sur le terrain. Avant cela, les soldats français, pas uniquement les parachutistes, parce qu'il y a eu la 10e division parachutiste qui a été engagée dans la bataille d'Alger, mais il y avait d'autres unités, les Zouaves, entre autres, puis d'autres unités, ces soldats français qui sont venus au secours du gouvernement, qui n'arrivait pas à rétablir la situation dans la ville, parce que grâce aux communistes du Parti communiste algérien, aux Européens du Parti communiste algérien, qui fabriquaient les bombes et qui apprenaient aux gens du FLN comment les fabriquer et comment les poser, la ville était un massacre quotidien. Les bombes étaient mises de préférence dans les, aux arrêts d'autobus, dans les dancings et dans les boîtes ou les bistrots où allaient les jeunes d'Alger, les jeunes étudiants entre autres. Et l'armée française est intervenue, qui est l'armée française qui avait été envoyée en Algérie par un gouvernement socialiste. Et l'armée française, sur ordre du même gouvernement socialiste, a reçu ordre de gagner la bataille d'Alger. Et beaucoup de gens, dès cette époque, pensaient que l'armée française ne gagnerait pas la bataille d'Alger. Manque de peau, les soldats français ont gagné la bataille d'Alger. Ils n'ont pas fait ça avec beaucoup de cœur, parce que c'était pas leur métier, mais ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce que d'abord, les cadres rentraient d'Indochine, où on avait abandonné les gens qui nous étaient fidèles, les catholiques du Tonkin, tous les supplétifs qui avaient servi à nos côtés. On l'a vu d'ailleurs après avec les boat people et tout ça. Et l'armée française en Algérie ne voulait pas perdre la guerre. Parce que le but d'une armée qui part faire la guerre, c'est de gagner la guerre. Et là, pour une fois, un gouvernement socialiste envoyait les troupes outre-Méditerranée et demandait, dans une ville comme Alger, dans la capitale de l'Algérie française, d'éradiquer les terroristes. Et l'armée française, dans son ensemble, qui était sur Alger, avec la 10e DP et sous les ordres de Massu, mais je dis bien, il n'y avait pas que des paras, il y avait beaucoup d'appelés qui ont fait leur travail. Et ils ont gagné la guerre, et ils ont gagné la bataille d'Alger. Ils ont écrasé le FLN, ils ont écrasé les tueurs. Mais tout cela, ça ne se fait pas les doigts dans le nez. Et il est bien sûr et certain que si demain, il y avait seulement 10 bombes qui explosent dans Paris, on les entendrait gémir. Mais que fait l'armée? Mais que fait la police? Mais tuer tous ces terroristes? Eh bien, l'armée a fait ce que le gouvernement lui avait demandé. Alors pourquoi revenir toujours sur Vichy, sur l'Algérie, sur Papon et la bataille de Paris? C'est parce que cela sert à semer la haine dans les quartiers, la haine auprès des jeunes. Et le Parti communiste espère là se refaire une santé en trouvant une clientèle électorale, ce qui est, à mon avis, proprement honteux et je dirais même en termes para, proprement dégueulasse. Et puis c'est aussi culpabiliser la police pour aujourd'hui et pour demain. Parce qu'il est bien sûr et certain que demain, si ça claque, je ne sais pas quelles sont les unités. Ça fait 20 ans que je dis si jamais un jour un ayatollah quelconque a fait débarquer clandestinement 4 ou 5 000 Kalachnikov ou Thompson, publicité non payée, hein, ben qui ira les sortir des immeubles quand chaque immeuble sera relié entre par les étages, par les souterrains, par les caves. Déjà, ils n'y vont pas aujourd'hui pour chasser la drogue. Alors, si demain, les gens sont armés, qui ira les chercher? Où sont les unités françaises capables de mettre de l'ordre? On mettra les pouces, on discutera avec les représentants des jeunes. Il ne faut pas oublier quand même une chose, que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas. Il y a plus de 2 millions de jeunes Français qui ont été appelés ou rappelés pour l'Algérie. C'est vrai qu'au moment du rappel, pour les rappeler, il y a eu quelques problèmes, mais il y a eu très peu de problèmes avec les appelés. Et les trois quarts de ces appelés ont fait leur travail. Ils n'ont pas tous participé au grand combat, mais les bonnes unités, les unités dites d'élite, à part la Légion étrangère qui est toujours composée d'engagés et qui en Algérie n'avait pas d'appelé dans ses rangs, les autres unités, les bonnes unités para, toutes les unités Béret Rouge étaient composées à majorité d'appelés. Et ces gens-là, dès le départ, ont eu en face d'eux des tueurs. Ce n'est pas nous qui inventons l'histoire. Ce n'est pas nous les révisionnistes qui changeons les données de l'histoire. Dès le début, il y a eu El Alia, une petite mine à côté de Philippeville, où là, c'était des mineurs européens. Je dis pas français, puisqu'il y avait des mineurs, des gens de toute l'Europe, hein, devenus français, mais venant aussi bien de Sicile que de partout. Ils ont été massacrés, eux et leurs familles. Et à El Alia, on a vu des dizaines d'enfants, de petits-enfants qui ont été assassinés, égorgés, les hommes émasculés. Sur les portes des granges et sur les portes des maisons à El Alia, il y avait des petits-enfants de 2-3 ans qui avaient été cloués sur les portes avec des pioches. Pour clouer un gosse sur une pioche, avec une pioche sur une porte, il faut déjà au moins qu'il y ait deux salauds qui tiennent le gosse et un troisième qui manie la pioche. La pioche. Ensuite, ça a été d'autres assassinats comme ça. Le FLN a tué 100 fois plus de musulmans hein, que les Français. Il y a eu Mélouza, 320 personnes, hommes, femmes, enfants, et surtout femmes et enfants et vieillards, assassinés par le FLN. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient du MNA, c'est-à-dire un parti politique qui était leur adversaire politique, tout simplement un adversaire politique. Bon, alors, comment ça se passait ? Il y avait un service de renseignement, mais tout ça c'est connu, ça a été écrit, ça a été dit, qui s'appelait le DOP. Et ce DOP dépendait directement du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. C'est à eux qu'étaient remis les prisonniers. Et comment étaient remis ces prisonniers ? Dans chaque unité, mais même aujourd'hui en temps de paix, il y a un officier de renseignement. En Algérie, dans une unité, dans un régiment, il y avait un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un ou deux sous-offes, et puis deux ou trois hommes de troupe qui formaient le service de renseignement du régiment. Et c'était eux qui étaient remis après les attaques, après les combats, les durs combats, parce qu'il y a quand même eu de sacrées bagarres, ne serait-ce que dans les arrêts de Mencha. Ces gens-là étaient remis. Moi, personnellement, hein, j'ai la prétention de dire que j'ai fait cette guerre et je l'ai bien faite. Bon, pendant des mois, je suis sorti avec 3 ou 4 hommes, hein, 8 quand le sergent-chef Sobanski sortait avec son équipe, puisque je dépendais du sergent-chef Sobanski, qui dépendait lui-même du lieutenant de Peretti. C'était le commando du 8e. Et avec Sobanski, nous étions les seuls dans le commando à sortir en Felaga, habillés en Felaga. Mais pas pour se déguiser pour la photo, comme ça a été fait des milliers de fois. Nous étions un commando entraîné, sérieux, et on allait à la chasse au Felaga, même jusqu'en Tunisie. Et bien, quand nous partions à 4 ou à 8 habillés en Felaga, nous étions dans une armée régulière, dans des unités régulières de l'armée française régulière. Nous étions des soldats français, mais nous étions déguisés en ennemis, comme ça s'est fait chez les Allemands, comme ça s'est fait chez les Anglais, comme ça s'est fait chez les Russes, comme ça s'est fait chez les Américains. Bon, nous passions la frontière tunisienne, nous rentrions en Tunisie, dans des régions entièrement tenues par le FLN, pour aller chercher, capturer des types et les ramener. Eh bien, la tactique normale de guerre de tous les commandos, c'est que le commando ne laisse jamais personne derrière lui s'il a été aperçu. Parce qu'il sait très bien qu'en revenant, même s'il se déboîte d'un kilomètre, il repassera pas loin de l'endroit où il est passé pour y aller. Eh bien, nous, dans mon commando, nous n'avons jamais tué un bûcheron ou un paysan qu'on a trouvé dans les zones interdites en train de couper du bois qu'il ne trouvait plus dans sa zone. Hein, on les emmenait avec nous, on les attachait et on les emmenait avec nous. Moi, je n'ai jamais vu tuer un type gratuitement. Les services de renseignement faisaient ce que font tous les services de renseignement de la planète. Je n'ai jamais vu non plus un soldat français, et j'ai quand même fait quelques années de guerre, hein, tuer sciemment hein, une femme ou un gosse. J'ai vu dans des mechtas, au même titre que j'avais vu hein, dans des guitounes en Indochine, hein, par un obus de mortier, par une rafale de mitrailleuse ou dans un combat, des femmes et des enfants blessés, malheureusement. Mais je n'ai jamais vu de mes yeux une femme abattue ou un gosse abattu par un soldat français. Alors que nous, on trouvait constamment, et toutes les unités, y compris les unités d'appelés, bien sûr, qui étaient les plus nombreux, trouvaient toujours des copains massacrés, des hommes et des femmes émasculés, les femmes à des outils dans le vagin, les gosses décapités, tout ça était proprement scandaleux. Alors après, le rapprochement entre l'Indochine, hein, qui revient maintenant, puisque j'ai appris l'autre jour qu'en Indochine, on passait notre vie aussi à torturer. Hein, alors qu'il n'y a pas une armée au monde qui a autant respecté son adversaire que nous avons respecté le Viet Minh. Viet Minh que l'on tuait, Viet Minh que l'on combattait, mais on avait un certain respect, un grand respect même, pour le soldat Viet Minh que l'on savait courageux. Respect que nous n'avons jamais eu en Algérie, pour le FLN. Parce que le Viet Minh, c'était la rigueur. Un boy scoutisme dévoyé, mais c'était ça. Hein, le gars qui avait droit à un kilo de riz, il n'avait pas droit à un kilo de sang, il avait droit à un kilo de riz. Alors qu'en Algérie, moi personnellement, dans le commando où j'étais, on est tombé 20 fois hein, sur des gens qui transportaient des condamnations à mort ou autres de tribunaux du FLN. Les gars piquaient la caisse, se barraient à l'étranger avec la caisse ou piquaient. Bon, donc il n'y avait pas pour le FLN le respect que nous avons eu pour les Viet. Bien qu'il y avait des unités du FLN dans les Aurès ou autres, il fallait aller les sortir. Il fallait aller les sortir à la fourchette. Hein, de chaque trou où ils étaient. Alors après, il n'y a pas eu que cela. Hein, l'affaire Papon revient pour la bataille de Paris. Mais tous ces gens-là ignorent tout parce qu'ils veulent tout ignorer. Il y avait en France la guerre. La guerre, moins qu'en Algérie, mais il y avait la guerre. Des dépôts d'essence sautaient, des dépôts d'autobus brûlaient, il y avait des attentats dans les trois quarts des quartiers. Hein, périphérique de la capitale de la France, Paris, hein, à Belleville ou ailleurs, il y avait des abattoirs clandestins où on n'abattait pas les moutons pour faire des méchouis, on abattait les ouvriers algériens qui ne voulaient pas payer le FLN. Ils étaient jugés et exécutés dans les caves par dizaines et on oublie un peu trop que des supplétifs algériens, des harkis aussi, des jeunes, pour beaucoup, des compagnies entières, ont servi dans la police parisienne. Police parisienne qui était dans ses commissariats, retranchée derrière des murs de sacs de sable. Et il y avait toujours un flic qui était là, pistolet mitrailleur armé, pour défendre le commissariat qui était souvent mitraillé. Alors comment peut-on tomber sur un peuple qui a si peu de mémoire? Ouais, parce qu'il vaut mieux ne pas avoir de mémoire. Parce que les porteurs de fric, les porteurs de valises, les traîtres qui ont servi hein, l'armée ennemie contre laquelle le gouvernement légal nous avait envoyé, nous, armée légale, faire la guerre, ces gens, ce qu'ils transportaient, c'était l'argent qui était escroqué et volé aux travailleurs algériens qui étaient sous la coupe du FLN. Et s'ils étaient égorgés, ou leurs filles en Algérie, ou leurs femmes, ou n'importe qui de leur famille, étaient exécutés. Alors que ce soit les communistes assassins, même si M. Hu se répand, aujourd'hui il se repent M. Hu, mais enfin hier il dansait le cirque, après-demain il dansera à poil avec une plume, où je pense si ça peut lui apporter trois voix, il n'est pas à sa poil, ils sont prêts à tous ces individus. Hein. C'est exactement quand il pleurait comme dévot au moment de la mort de Staline, le petit père des peuples. Eh bien, les trois quarts des unités en Algérie, je le répète encore, étaient composés d'appelés. Et les trois quarts de ces appelés ont fait leur devoir. Même si ça les emmerde que l'on dise ça, ils ont fait leur devoir. Les appelés en Algérie étaient de très bons soldats et ils ont servi avec honneur et fidélité. Certes, 24 mois, 27 mois, hein, ça ne se fait pas sur un pied. Il y en avait certains qui trouvaient que c'était un peu long. Mais ils ont servi quand ils étaient commandés par de bons officiers, par de bons sous-officiers, ils ont été de bons soldats. Les unités où ça a merdé, c'est les unités qui étaient commandées par des cloches ou des bons à rien. Mais les unités combattantes ont fait absolument leur travail. Et Monsieur Jospin, l'autre jour, disait « Heureusement, hein, le contingent était là en Algérie pour s'opposer au putsch. » Mais enfin, on entend des conneries dans ce pays. Il n'y a qu'à prendre un peu les numéros des régiments qui ont fait le putsch. Les trois quarts des régiments étaient des régiments d'appelés. à 90% composé d'appelés, parce que là aussi il y avait que la Légion qui était composée d'engagés. Les autres étaient des régiments d'appelés. Le régiment où j'étais était à 90% d'appelés. Le commando dans lequel j'étais, avec les risques que l'on prenait en sortant habillé en fel, était à majorité d'appelés. Là pourquoi toujours raconter l'histoire, raconter n'importe quoi? Parce que beaucoup de jeunes qui ont fait la guerre en Algérie étaient fiers de servir, étaient fiers d'être soldats. Hein, la République et l'éducation nationale n'avaient pas encore réussi à les véroler totalement. Et lorsqu'ils étaient dans des unités telles que les nôtres, ils portaient avec une grande fierté le béret ou même le calot des tirailleurs ou le calot des soifs ou le calot des spahis. Il y a eu de grandes unités et l'armée française a été une grande armée en Algérie. Alors on nous reproche en nous disant mais l'Algérie, il y avait des régions déshéritées. Bien ces régions déshéritées, l'armée s'est occupée de la population, s'est occupée des villages. Pas uniquement les SAS, beaucoup les SAS, mais les régiments étaient très gentils avec les gens de la région. Les gens de l'armée française en Algérie tuaient le FLN. Pourquoi? Parce que les FLN c'était l'ennemi. C'est tout, ça commençait là et ça s'arrêtait là. Mais qu'avait à voir l'armée française sur l'arriération, enfin c'est difficile à dire, sociale de l'Algérie? À part au moment de la conquête, où les gouverneurs de l'Algérie étaient des militaires, les chefs français en Algérie étaient des militaires, dès que c'est passé aux mains des civils, ce sont des socialistes qui étaient gouverneurs de l'Algérie. Il n'y a qu'à prendre la liste, c'était chasse gardée des socialistes. Donc c'est eux qui sont responsables s'il n'y avait pas d'eau ou pas d'électricité ou que c'était la misère dans des régions comme les Aurès, les Mensa ou ailleurs. Mais il y a une chose qui est bien, qui tombe bien quand même. Les porteurs de valises se battent depuis des années pour dire mais ça n'était pas des opérations de police, ça n'était pas, c'était la guerre. Mais moi j'ai toujours pensé que c'était la guerre. Une guerre civile, parce que moi j'étais pour l'Algérie française. Une guerre civile. Parce que moi, ce que je voyais, enfin moi, mes copains et moi-même, ce que l'on voyait tuer de préférence, c'était les Algériens qui étaient pro-français. Lorsqu'aujourd'hui le gouvernement français accepte que les chefs du FLN d'Alger aillent à Verdun et que sur les tombes des soldats tombés sous le drapeau français en 14-18, on fasse sonner les clairons et jouer l'hymne du FLN, de qui se moque-t-on? De qui se fout-on? Combien de dizaines ou de centaines, de milliers d'anciens combattants qui portaient leurs décorations, Légion d'honneur, médailles militaires, des croix de guerre gagnées à Cassino ou ailleurs, ont été égorgés, exécutés par le FLN. Alors je tiens à leur dire, à tous ces messieurs, vous avez, par des magouilles incroyables, fait en sorte que le gouvernement déclare que la guerre était officielle en Algérie. Donc c'est vrai, ça n'était pas des opérations, c'était la guerre. Eh bien messieurs, au nom des anciens combattants que je préside, je peux vous dire une chose, puisque c'était la guerre, vous avez trahi en temps de guerre, et nous allons vous poursuivre pour cela. Nous avons fixé au Cercle National des Combattants et au Comité de Liaison Mémorial de l'Honneur Français une année complète, 2001 en totalité, pour régler votre compte et pour faire en sorte que l'honneur soit rétabli dans ce pays.
Merci Roger, je crois qu'il n'y a pas de commentaire à faire.
Notre liberté et nous.
Bien, eh bien, ah oui, alors il y a encore une annonce à faire, c'est que Roger Olindre prépare, comme chaque année, le réveillon. Alors, Roger, tu peux peut-être...
C'est le réveillon du Cercle National des Combattants qui se passe au château, hein, et vous pouvez téléphoner, il reste encore des places, j'ai besoin encore de quelques inscriptions. Vous téléphonez demain après-midi, mardi et mercredi prochain, l'après-midi, vous demandez Jeannine Lezeau, elle attend vos appels, et notre ami va vous donner le numéro exact de téléphone où vous pouvez appeler.
Alors, c'est le 01 40 59 07 66. On le redonnera par les téléphonistes.
Voilà. Alors, on demande également à quel ordre il faut établir les chèques pour le père Ardouache. Si vous voulez le répéter, ma bonne Victoria.
Je vais le répéter. Je l'avais mis de côté pour tout à l'heure. Scout voilà. Et guide. Alors, libellé du chèque au scout et guide de Riomont. Et l'adresse, père Ardouache, village d'enfants de Riomont. Boîte postale 28 62 801 Liévin-Cedex. Je le redirai à la fin.
Bien, eh bien nous allons passer à la suite. Mon cher Martin Pelletier, si tu veux te mettre en face de moi, on se verra mieux. Parce qu'il est à ma droite, mais j'aime pas trop avoir du monde à ma droite.
Ouais,
à ma gauche. Il y a plus de place quand même. Alors, tu viens de publier, là, il vient de sortir, ce livre ?
Il vient de sortir, je viens de le recevoir, j'ai manutentionné 3 tonnes avant de venir.
C'est bien. J'ai choisi la bête immonde.
Oui, j'ai choisi la bête immonde, le titre dit ce que c'est, c'est l'itinéraire, l'autopsychanalyse d'un fasciste. Voilà pourquoi je suis venu là et pourquoi j'y suis resté.
Comment ça s'est passé, en fait, cette décision d'écrire le livre? Je ne parle pas de décision de choisir la bête immonde, mais d'écrire le livre.
Ben écoute, c'est après la rupture du front. J'ai réfléchi, on a tous réfléchi, on a laissé passer du temps. Et puis, il m'a semblé intéressant, pour comprendre tout ce qui se passe maintenant, d'ailleurs on vient de le voir avec cette affaire de torture en Algérie, pour comprendre toutes les questions fausses ou vraies qui se posent maintenant, on ne peut pas les comprendre si on ne fait pas l'histoire de ce qu'on appelle le fascisme depuis 40 ans. Alors j'ai pris ma plus belle plume.
De ce qu'on appelle, qui est-ce qu'appelle le fascisme, tu veux dire,
ceux qui tiennent le manche, ceux qui tiennent le micro, ceux qui tiennent le pouvoir, ont décrété que certaines personnes étaient fascistes, sachant d'ailleurs tout le temps, à un moment donné, De Gaulle était fasciste, tu te souviens, Chirac était fasciste, beaucoup de gens étaient fascistes. Alors, bon, j'ai essayé de voir ce qu'il y avait, comme il était impossible de définir le mot, je me suis dit, voilà, moi je suis fasciste et je vais essayer de voir comment ça se passe. Et j'ai fait une espèce de retour sur 40 ans de fascisme, avec les bons moments et puis les moins bons. C'est-à-dire, c'est un petit résumé de l'histoire de France, et puis on arrive à maintenant, c'est-à-dire le succès extraordinaire du Front National et l'éclatement surprise du Front National.
Mais ta décision, toi, parce qu'on se connaît quand même depuis un certain nombre d'années, tu n'étais pas engagé, par exemple, dans la presse nationale, tu étais un journaliste brillant, prometteur à Combat, qui n'était quand même pas...
Combat, c'était le quotidien de Paris.
Le quotidien de Paris, oui, qui était devenu le quotidien de Paris, qui n'était quand même pas le fer de lance de la droite fascisante. Hein.
Non, mais il y avait de tout là-bas, il y avait de tout, des ratons laveurs et des fascistes. Alors, il y avait des rocos, il y avait des socialistes, il y avait des filles, il y avait des garçons, des entre-les-deux, il y avait de tout. Et là-bas, j'ai découvert Le Pen, dès l'extérieur, et je me suis dit qu'il n'était pas comme on le décrivait. Et donc, j'ai essayé de le connaître mieux, et de fil en aiguille, quand tu essayes, tu le sais bien, beaucoup mieux que moi, tu l'as vu plus tôt, un peu plus tôt que moi, quand on essaye de décrire proprement, justement, ce qu'on appelle un fasciste, eh bien, on n'en donne pas l'image qu'il faut donner. Et donc, on devient soi-même fasciste. C'est l'antifascisme qui crée le fasciste, comme disait Sartre.
Oui, oui, c'est exact. Pour une autre catégorie. Le moment crucial, est-ce qu'il y a eu un moment où les choses se sont déclenchées?
Oui, bien sûr, quand on saute le pas, c'est-à-dire que je me suis rendu compte, quand j'avais fait certains reportages sur Le Pen en 83, que ça ne collait plus avec ce qu'on attendait. Alors, tu attends un petit moment, tu renicotes.
C'est ce que ton journal attendait.
Voilà. Mes amis et tout le monde, voilà, c'était plus ce qu'il fallait, quoi. Alors, en 85, au bout de 2 ans, ben, je suis allé voir Jean-Marie, je lui ai écouté, est-ce que ça vous plairait que je sois candidat du Rassemblement National ? Il a réfléchi un petit moment, et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Après, une fois qu'on a mis...
Donc ça, c'était vraiment c'était une rupture totale avec ton milieu d'origine.
Total.
Ça s'est passé comment ? Parce que moi, c'est quelque chose qui me pose question, comme on dit, parce que moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, et ça n'a jamais posé aucun problème pour moi. J'ai jamais eu... Quand je me suis marié, ma femme savait très bien qui elle épousait, mes beaux-parents aussi, d'ailleurs. Je dis pas que c'était le plus gros pot cadeau que pouvait leur faire leur fille, mais enfin, on savait, mon beau-père, quand je lui ai demandé la main de ma femme, m'a dit, si vous croyez que j'ai élevé ma fille pour la donner à un petit con de nazi, ça commençait mal. Bon, après, ça s'est arrangé. Mais à part ça, ça n'a pas été une surprise pour quiconque. En revanche, toi, tu vivais dans un milieu modéré. Enfin, j'imagine.
Oui. Mon beau-père me tenait pour un Jean Foutre et un emmerdeur, ça, mais pas pour un nazi.
Tous les gendres.
Enfin, voilà. Ça a été une surprise. Ouais. C'est le nazisme surprise. Ouais. Mais bon, j'ennuie tous mes amis depuis 30 ans maintenant et je les déçois depuis 15. Voilà. Mais ça ne change rien.
Et là, tu as réussi l'exploit depuis 2 ans de te fâcher de rester fâché avec tes anciens amis, de te fâcher avec les nouveaux.
Nouveaux, voilà. Ben, c'est pas grave. Je suis pas tellement fâché. Regarde, Roger était là tout à l'heure, on s'est serré la main. Moi, je suis toujours son ami. Je pense qu'il est toujours le mien. Enfin, je le considère plutôt toujours comme mon ami. J'espère qu'il me considère toujours comme le sien. Les histoires politiques passeront. Mais l'amitié ne passera pas, je pense pas.
Le ciel et la terre passeront, mais le fascisme ne passera pas.
Pas de sacrilège, hein. Voilà comment ça s'est passé. Je pense que de toute façon, il n'y avait pas moyen de faire autre chose. C'est parce que du moment qu'on considère et qu'on voit les choses, quand on fait un peu de journalisme, on voit bien que l'objet de l'enquête, qui était Jean-Marie et d'autres, hein, ne correspond pas du tout à l'image qu'on voulait... que j'en donne, de deux choses l'une, ou bien tu es un crétin, tu vois pas qu'il y a une différence. Bon, tu es un crétin, c'est tant pis pour toi. Mais c'est pas grave d'être un crétin. Ou bien tu as vu et tu te couches, alors tu es un sale con. Ou bien tu sautes pas. Voilà. Et pour la même raison, je suis parti d'ailleurs. Mais ça, les histoires tristes, j'aime pas en parler.
Est-ce que c'est une partie importante du livre, ça ?
Laquelle ?
Celle que tu viens d'évoquer, la rupture et les suites de la rupture.
La rupture fait un... Il y a 3 parties. La première partie, c'est comment
un bon élève peut-il mal tourner ?
Oui, et même d'ailleurs, comment en général la France a-t-elle pu devenir fasciste ? Ça, pour moi, on parlait de l'Algérie tout à l'heure, toute une génération politique a été marquée par l'Algérie. Hein.
Il faut répéter quand même, parce que j'ai remarqué, spécialement ce soir d'ailleurs, que le deuxième degré passe mal. Hein. Ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, c'est la lune...
Ah bon, fasciste, c'est avec des guillemets.
C'est pour rire qu'on
dit
ça.
C'est pour rire.
Il est évident qu'on n'est pas fasciste pour l'excellente raison qu'on est royaliste.
Voilà.
Et qu'il y a vraiment un monde. Un monde. Hein,
mais
un
je, monde. J'utilise cas, simplement le vocabulaire de l'adversaire. Là, voilà. Clairement. Ça. Bon. Alors, comment pouvait-on être fasciste avec des guillemets à partir de 1960? C'est la première partie. Ça s'appelle l'Égypte. C'est-à-dire que nous étions souffrants en Égypte. La deuxième partie, c'est que ça s'appelle l'Exode. Parce qu'avec Jean-Marie Le Pen, qui était une espèce de prophète, nous sommes sortis d'Égypte.
Il nous a sortis de la Moïse.
Bravo. Quel bon talent. Et tu n'avais pas préparé.
Non. Bien.
Et la troisième partie s'appelle malheureusement le Mont Nebo. Le Mont Nebo, c'est l'endroit où on arrive au bord du Jourdain, où Moïse meurt en regardant la terre promise. Puis la quatrième partie, qui est un appendice, s'appelle Après la bombe. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est si grave? Je pense que non, parce que moi je suis désolé, mais pas désespéré. Et quand je vois Roger tout à l'heure, on était tous les larmes aux yeux de ce qu'il disait. J'étais à 100% d'accord avec lui. On est toujours à 99% d'accord, lui et moi. Il manque un petit pourcent.
Oui. Guillaume Luit, est-ce que vous connaissiez, j'imagine, Pelletier?
J'ai eu l'occasion de rencontrer Martin Pelletier au moment où j'ai pris des responsabilités à la tête du FNJ, fin 98, 2 mois, le temps que la séparation arrive. Et je suis très heureux d'être là ce soir, je vous remercie Serge, parce que mon propos va être exactement dans la continuité de ce qui a été tenu. On est au Mont Nebo, aujourd'hui effectivement il faut franchir le Jourdain, et le travail dans lequel je me suis engagé depuis que j'ai pris mes distances avec le Front National, c'est un travail qui vise à préparer ce qui pour moi est la date butoir, pour notre famille, c'est-à-dire l'après-présidentielle de 2002. Et qu'après les présidentielles, il faudra bien, bon gré, malgré, retrouver le chemin de l'unité. Pour une raison simple, c'est que depuis 20 ans, on voit bien que ce pays est dirigé par des gens qui sont minoritaires. Mais ils sont unis face à des gens qui sont divisés, et divisés à répétition.
Oui, ça, je pense qu'il y a une explication. Ça, je reviens vers Martin parce que je voudrais qu'il me donne son avis appuyé sur sa longue expérience. J'ai beaucoup réfléchi à la question de savoir pourquoi les hommes politiques sont corrompus. Et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi tous les hommes politiques sont corrompus, sauf les exceptions d'usage, bien entendu. Et pourquoi le Parti communiste, le Parti socialiste, l'UDF, le RPR ont à l'intérieur des corrompus. Et je ne comprenais pas, parce qu'on peut comprendre qu'un parti soit corrompu et que les hommes de ce parti soient corrompus. Mais tous les partis, et beaucoup d'hommes dans tous les partis, c'est un grand mystère. Alors, en réfléchissant, je crois que j'ai trouvé l'explication. Et il faut se reporter à l'origine de la mafia. En réalité, ce qui se passe, ce n'est pas les hommes politiques qui sont des gangsters, c'est les gangsters qui font de la politique. Les gangsters, au début, ont commencé en faisant travailler des filles. Enfin, d'abord en attaquant les banques, en gros. Hein. Et puis ensuite, ils se sont dit qu'à force d'attaquer les banques, on risquait de prendre des coups de fusil ou des coups de pistolet, et qu'il y avait une autre solution qui était intéressante, c'était peut-être d'attaquer des gens qui ne pouvaient pas faire grand-chose, à savoir des pauvres filles qu'on mettait sur le trottoir, et elles ne se défendaient pas, au moins quand elles se défendaient, elles ne tiraient pas des coups de fusil, c'était moins dangereux que d'attaquer des banques. Donc ils ont conservé les banques, et puis ils s'en sont pris aux filles. Puis après, ils se sont aperçus qu'il y avait un très bon truc pour gagner du fric, c'était les laveries, par exemple. Hein. On ouvrait des laveries, puis on prenait du fric. Ensuite, ils ont fait un peu de racket dans les boîtes de nuit. Ils sont allés voir les patrons de boîtes de nuit en disant « On vous assure notre protection et vous nous payez. » Ça s'appelle le racket. Et puis, ils ont vendu un peu de drogue. Donc, il y avait les banques, l'escroquerie, la prostitution, la drogue, le racket. Et puis, un jour, ils ont dit « Mais il y a un marché formidable qu'on n'a jamais exploré, c'est la politique. » Donc ils ont intégré à leur plan de développement, la mafia a intégré à son plan de développement l'univers politique. Et la réalité, c'est pas que les hommes politiques sont des mafieux, c'est que les mafieux sont devenus des hommes politiques. Et quand on a compris ça, je crois qu'on comprend tout de suite beaucoup mieux ce qui se passe dans ce pays, dans notre pays.
Dans notre pays, et on devient de plus en plus royaliste, parce que le seul pouvoir indépendant, c'est le roi.
Je sais pas, tu partages mon analyse ?
Oui, mais je pense quand même qu'il y a des contre-feux possibles. Il faut savoir, quand Roger parlait tout à l'heure du Viet Minh, qui était un boy scoutisme dévoyé, il y a quand même la possibilité d'être beaucoup plus rigoureux. Voilà, c'est tout. Il faut choisir des gens durs. Et il faut peut-être aussi les mettre à l'abri de la tentation en les payant correctement.
Oui, enfin, je pense, je suis pas certain qu'il faille payer les hommes politiques. Moi, j'ai pas envie de payer les gangsters pour qu'ils attaquent les banques et voilà, c'est tout. Tu vas revenir nous voir, parce que j'ai pas lu ton livre, hein. Il vient de sortir, donc je voudrais le lire, puis après on aura une discussion.
Ça serait malhonnête de faire une longue émission sur quelque chose que
je peux pas dire beaucoup de bien.
Et que moi-même j'ai à peine lu.
Voilà. J'étais contenté de l'écrire, ce qui est déjà pas mal.
Voilà, alors je vais
dis à quel endroit on peut se le procurer quand même.
Oui, voilà, parce que ça peut être encore un cadeau de Noël, donc il faut envoyer un chèque à l'ordre de ICM.
ICM. On dit maintenant comme ça, ICM. Ça
donc fait. ICM.
Il n'y a pas .com.
Non.
Donc, ICM.
Alors l'adresse est boîte postale 111-62 75920 Paris CEDEC 19. Voilà.
Encore une fois.
Alors donc ICM, l'ordre du chèque c'est ICM. Ensuite la boîte postale 111-62 75920 Paris CEDEX 19. Voilà. Alors le prix c'est 130 francs plus 20 francs de port. Donc un chèque de 150 francs à ICM.
20 francs de port et non pas 20 francs de vache folle.
Répétez le prix.
130 francs plus 20 francs de port. Donc un chèque
150 francs. Franco. Qui nous permet de dire tout le bien que nous pensons.
La preuve que tu es fasciste.
Encore, ils ont cité le général Franco, c'est vraiment des fascistes. Guillaume Lutte, vous qui n'êtes pas fasciste, bien entendu. Alors, expliquez-nous, s'il vous plaît, en quelques minutes, ce qu'est la coordination.
La coordination est née fin septembre de la volonté d'un certain nombre de militants et de cadres du Front National d'avant 98 de préparer l'avenir, parce qu'effectivement, malgré la crise, il y a une chose qui est certaine, c'est que nos idées n'ont pas reculé dans le pays. Et à lire notamment les sondages qui ont été publiés avant l'été dans Le Monde, dans Libération, aussi bien sur le sentiment national, le sentiment face à l'immigration, mais également sur les identités régionales, on voit que 2/3, les 2 fameux Français sur 3 de Giscard d'Estaing, se retrouvent sur l'essentiel de nos positions et de nos choix politiques. Malheureusement, alors que en mars 98, Marianne titrait, là sans guillemets, danger, le péril néofasciste, au lendemain des élections régionales, nous sommes aujourd'hui, 2 ans et demi après, toujours diabolique, mais nous sommes un diable qui fait rire. Nous sommes à tel point risibles qu'alors que la corruption dont vous parliez a aujourd'hui est redevenue au premier plan, le chef de l'État est enfin impliqué directement, on s'aperçoit...
Non, il est pour rien, il a dit qu'il ne pouvait pas le croire, il n'était même pas au courant.
Il est impliqué bien malgré lui, tout en à l'insu de son plein gré.
Dans le libre journal, horreur, Chirac se croyait à la tête d'une troupe de scouts, il se retrouve chef d'un gang de mafieux. Mais il ne savait pas.
Visiblement, il n'y a pas d'argent à la tête des troupes de scouts, donc je pense que ça explique certaines choses. Ouais. Votre analyse sur la mafia est intéressante parce qu'elle rejoint l'une des motivations qui nous a fait créer la coordination, c'est que nous, nationalistes, nous n'avons pas que des idées. Nous avons aussi des méthodes à proposer. Et nous avons fait l'analyse que ce qui a péché au Front National et dans la crise qui a suivi le Front National, ce ne sont pas les idées, c'est la méthode. Nous avons oublié que nous étions différents du reste de la classe politique et que si nous prenions le pouvoir, nous n'allions pas simplement faire un passage éclair avec 3 mesures miracles qui ne changeraient pas le fond de la société. Car effectivement, nous sommes depuis 2 siècles héritiers ou tributaires de principes qui sont nominalement opposés, antithétiques avec notre conception nationale. Donc, est-ce qu'on peut espérer venir et que le système va nous laisser, par le biais de quelques réformettes, le temps d'une mandature législative, régler les problèmes qui sont ceux de ce pays ?
Ça, j'en crois pas à vous.
Bon. Donc, nous, c'est dans cette optique qu'on a réfléchi pour essayer de proposer quelque chose qui permette de recréer des passerelles, tel que vous l'avez fait ce soir, en accueillant Martin Pelletier, qui était au Front National jusqu'en décembre 98, Roger Hollande, qui est toujours au Front National, et Guillaume Luy, qui était au Front National jusqu'au mois d'avril 2000. Ces passerelles...
C'est mon sens de la... Comment on appelle ça ? De la...
L'écuménisme.
De l'écuménisme, oui. Alors, concrètement, on a lancé un appel très clair, qui établit un double constat, celui de la crise de confiance et la crise de direction, qui entretient, selon nous, cette crise de confiance, mais aussi... sur le fait que, et en lisant la presse adverse, on s'aperçoit bien, c'est Alain Bire qui est l'un des politologues de Ralph Ron, qui écrivait dans un numéro de ce journal, avant l'été, que la crise de l'extrême droite ne durera que le temps de sa division. Parce que les raisons de l'émergence de notre famille politique sont là et sont de plus en plus criantes.
Il y a un type intelligent à Ralph Ron. Étonnant. Oh, à mon avis, il ne va pas rester longtemps.
C'est un infiltré.
Et donc, nous avons lancé cet appel en insistant aussi sur une chose qui est très importante, puisqu'il faut dire que la majorité des gens qui, pour l'instant, se sont engagés autour de la coordination sont de jeunes cadres ou anciens cadres provinciaux du Front National ou des mouvements amis du Front National. Et nous avons décidé de placer notre combat sur un plan très simple, qui est celui du combat identitaire. Ce qui est important, puisque moi le premier, si je n'ai pas suivi Bruno Maigret par exemple au moment de la scission du Front National, je ne l'ai pas fait à l'époque pour des raisons politiques. À l'époque, je me considérais comme souverainiste et je pensais que le combat pour la souveraineté primait. Mais en 1 an et demi de responsabilité à la tête du Front National de la jeunesse, et par mon travail, j'ai fait revenir des jeunes au Front National, donc j'ai vu quels étaient les défis, à quoi était confronté aujourd'hui un jeune de 16 ou 17 ans qui est lycéen. Je me suis rendu compte que ça n'avait plus rien à voir avec ce qu'était le collège ou le lycée du milieu des années 80 lorsque j'ai passé mon baccalauréat. Je me suis rendu compte qu'effectivement, vouloir défendre la souveraineté alors que l'identité est directement menacée, ça ne sert à rien. C'est comme défendre une maison qui n'a plus d'habitants. Donc aujourd'hui, il est évident que le combat identitaire prime, que notre peuple est menacé. Et Jean-Marie Le Pen, le premier, répète depuis 20 ans que nous sommes engagés dans une lutte contre le temps. Cette lutte contre le temps, elle ne tolère pas de notre part ce cadeau fait à nos adversaires qui s'appelle la division. Alors je ne me fais pas d'illusions, nous ne faisons pas d'illusions, nous ne demandons pas l'unité de nos chefs. Parce que malheureusement les hommes sont des hommes et l'inimitié, la rancœur, tout ça sont des choses qui existent. En revanche, nous prêchons pour l'unité des militants, pour l'unité de la base. Concrètement, nous avons engagé une tournée régionale qui est passée pour l'instant par Bourges, par Nîmes, par Montélimar, par Toulouse, par Rennes, qui va se poursuivre, qui localement essaye de rassembler à nouveau les militants, sympathisants ou électeurs tout simplement du Front National et du MNR, puisqu'aujourd'hui la représentation politique est divisée. Je peux vous dire que ça a de l'effet. On a des salles qui sont à la hauteur de nos moyens, puisqu'on est, une petite poignée à nous en occuper, sans structure nationale, sans bureau, sans rien du tout. On a un fichier de 1500 noms, ce qui n'est quand même pas énorme pour travailler toute la France. Mais par exemple, on a réuni à Toulouse, au début du mois, une quarantaine de personnes, dans des conditions rocambolesques, qui témoignent aussi peut-être que les gauchistes ont bien compris, aujourd'hui, d'où pouvait venir le danger. Et que le danger, il ne viendrait uniquement de notre réunification. Puisque pour la première fois à Toulouse, on est arrivé devant un hôtel dont la salle nous a été refusée au dernier moment, parce que les gauchistes locaux avaient lancé une campagne auprès de l'hôtelier, avec quelques jeunes dans la rue, avec des bombages sur son hôtel, demandant à ce que, que le fascisme ne passerait pas à Toulouse. Alors vous savez que Toulouse est quand même une ville particulière en France, puisque c'est là qu'est né le SCALP, les sections carrément anti-Le Pen, et également que se présente aux prochaines municipales la liste Zebda de ce groupe communautaire, communautariste, immigré bien sûr, qui entend faire une liste municipale. Et qui est crédité dans les sondages de 9%.
Je trouve qu'il devrait y avoir des listes comme ça partout en France pour que les Français comprennent ce qui est en train de se passer.
Pour que les Français réagissent. Alors c'est dans le cadre de cette réunion, concrètement, qu'un certain nombre d'anciens militants du Front National et du MNR se sont retrouvés. Il faut savoir que c'était quand même particulier. Il y a 2 ans à Toulouse, ils avaient sorti les fusils de chasse entre eux. Alors la coordination a au moins ce mérite-là, c'est de permettre à des gens qui, il y a 2 ans, discutaient à coups de fusils de chasse, de se retrouver dans la même pièce, dans une ambiance un peu survoltée.
Sans les fusils.
Dans une ambiance un peu survoltée, puisque je vous passe sur le jeu de cache-cache avec les gauchistes pour trouver une petite salle de secours, et terminée par les Lansquenets et par une proposition très concrète qui a été faite par le responsable local du MNR, qui est de faire une liste unique FN et MNR, pour ne pas laisser justement de la ville de Toulouse les bancs de l'opposition municipale squattés par les représentants de la liste Zebda.
Ok, Guillaume, je vais vous demander de donner l'adresse à laquelle on peut vous contacter. Alors, vous avez une adresse, un courriel.
Exactement. La coordination a une adresse électronique qui est la coordination
en un seul mot.
@. La coordination.
@, c'est le petit a dans un rond.
Rond. Ça veut dire chez. Yahoo.
Y-H-2-O.
A-H-2-O.
Comme les personnages de
FR.
De Swift.
Et que cette coordination fait signer une lettre que nous allons remettre mi-janvier à Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret, qui a déjà reçu pour l'instant plus de 200 signatures, dont celle de Roland Gaucher, de Philippe Randa, mais surtout de militants de base, de province, que nous avons rencontrés dans nos réunions, qui appellent à l'unité, à ce que ces chefs n'empêchent pas la constitution de listes unitaires dans le cadre des municipales. Et très concrètement, je vais prendre un exemple qui est celui de Noyon dans l'Oise, ville phare, puisqu'au premier tour des municipales de 1995, la liste Front National de Pierre Descaves avait obtenu 42 ou 44% au premier tour, ce qui est le plus gros score jamais enregistré par nos idées dans un premier tour d'élection dans une grande ville. Et que dans cette ville, le responsable local du MNR, Laurent Isoré, un jeune conseiller régional, a choisi, non pas dans la dernière semaine, mais 3 mois avant, de ne pas présenter de liste et de faire un comité de soutien à la candidature Front National de Pierre Descaves, qui se traduit par un tract distribué dans les boîtes aux lettres. C'est concrètement ce que nous faisons, et nous avons donc cette lettre à signer par le biais donc soit de cette adresse électronique lacoordination@yahoo.fr, soit plus simplement par la poste à la coordination chez Résistance, boîte postale 60.
Allez doucement les auditeurs, comment voulez-vous qu'ils écrivent?
Résistance
après.
Boîte postale 60-426,
oui.
44-004, Nantes, CEDEX 04. Ouais. Et la coordination est également doublée depuis une semaine par une coordination de la jeunesse que j'anime, qui va s'appuyer sur un syndicat étudiant unitaire, qui reçoit l'appui de militants FNJ comme MNJ et également autres comme Unité Radicale, qui s'appelle l'UDEN, Union et Défense des étudiants nationalistes. Et cette coordination de la jeunesse organise pour le 1er mai une journée d'action sur Paris avec un défilé qui sera à une heure différente de celle du Front National et dans un lieu différent pour ne pas gêner le cortège du Front National, et qui sera suivi très probablement par un colloque, un débat pour préparer le lendemain des présidentielles et la relève de nos idées.
Merci Guillaume Huit. La coordination, vous nous rappelez l'adresse s'il vous plaît Victoria?
Je ne vous dis pas le... la coordination en un seul mot, @yahoo.fr, et par la poste Résistance, boîte postale 60 426 44 004 Nantes, CEDEX 04.
Merci. Alors, on va maintenant passer à une autre forme de résistance. Alexandre Chabanis.
Oui, bonjour.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, ça fait très longtemps, ouais, Alexandre, qu'on n'a pas...
On va pas pleurer, quoi.
On va pleurer, converser. Non, on va pas perdre du temps à pleurer. Mais ouais, bon, oui. Alors, on reprend nos entretiens sur cette antenne. Où en sommes-nous?
Ben, où en sommes-nous? Quand est-ce que tu me fais une grande émission, d'abord?
Eh bien, au mois de janvier, je l'ai comme promis.
Bon. Je voudrais dire deux choses sur le plan de ce que je viens d'entendre déjà. C'est évident que le combat pour l'unité ne passe que autour d'une idée. Il ne passe plus, et je vais vous le repréciser, il ne passe plus par des chemins qui ne nous emmèneront à rien, et on le verra bientôt. Alors, je voudrais faire une remarque sur la violence en France, parce que tu as suivi pas mal de choses. Et je dis que j'ai à l'heure actuelle, sur ce qui se passe à Bessancourt, la preuve que le pouvoir politique instrumentalise la délinquance immigrée à Bessancourt comme dans toute la France. C'est-à-dire, je dis bien, c'est le pouvoir politique qui instrumentalise la délinquance immigrée à Bessancourt comme dans toute la France. Donc, j'ai à l'heure actuelle tous les éléments juridiques pour engager des actions en justice contre les institutionnels, et donc ces actions vont être engagées. Voilà, je voulais te préciser ça parce que les auditeurs sont au courant de mes actions à ce niveau-là, et donc se poursuit une action globale qui fait que, sur le plan juridique, je demande aux Français de bien se rendre compte qu'il ne faut plus être ne plus payer des impôts pour ne plus avoir de sécurité dans votre pays. Deuxième pan, sur le plan de la politique générale, ça vient de rejoindre... je suis ancien combattant, mais j'ai jamais été chercher ma carte. J'ai bien apprécié les propos de Popeye, en lui disant, il est évident que la paix civile des soldats en Algérie était simplement là pour, pour défendre la paix civile, telle que les Français la conçoivent, et tu as eu bien raison de rappeler qu'à cette époque-là, au temps de la paix civile française, on n'égorgeait pas les lycéens dans leur... C'était la paix civile française, qui n'a rien à voir avec la paix civile à l'heure actuelle qu'on voit en Algérie. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'en sortant de ça maintenant, sur le plan de la politique générale, il faut quand même faire un point par rapport à mon idée, aux idées que nous développons. Ce qui m'effraie un peu dans le débat que j'entends à longueur d'antenne et à longueur de journaux, c'est le vide des idées en réalité. C'est-à-dire qu'on ne propose pas aux gens, on leur dit unité, mais on leur propose pas autour de quoi. On leur dit autour d'hommes, autour de structures, autour de mots, et on leur dit pas, comme nous le faisons, toi et moi, depuis 6 mois, il y a une idée centrale. Il y a une idée politique centrale. Et pourquoi les hommes politiques, en ce moment, ont peur de cette idée? Je dis tous. C'est que le conflit, et on le voit dans l'opposition comme dans la majorité politique actuelle, ou on le voit dans les milieux nationaux, que le conflit est la base de toutes les discussions politiques entre hommes. Toutes les discussions politiques que l'on entend aujourd'hui et qu'entendent les Français sont des discussions conflictuelles entre hommes, entre partis, entre factions, entre familles de pensée. Il n'y a aucune vision politique actuellement qui puisse engager les Français dans une action les unissant. Eh bien nous avons bien dit, ça fait 6 mois qu'on le répète, et nous avons eu raison sur le référendum. Nous avons non seulement eu raison, mais nous poursuivons l'action à ce niveau-là aussi. En fait, je pense qu'à l'heure actuelle, les Français sont les laissés pour compte des cancers intellectuels qui rongent la classe politique. Il faut sortir de ces cancers. Les Français veulent respirer. Aujourd'hui, face à ces maladies qui frappent la classe politique, je pense que nous sommes les seuls à proposer une action concrète, réelle, qui tienne compte de l'histoire de France et de la réalité actuelle de la France. Parce que l'histoire de France, quand on parle des états généraux, il y a des gens, là, on les voit, ils sont traumatisés. Les états généraux, vous rendez compte, c'est 1789. Mais c'est aussi Philippe le Bel, merde, alors. C'est quand même le pouvoir qu'avait créé Philippe le Bel de démocratie directe. Il avait créé un pouvoir des communes, Philippe le Bel. C'est un héritage traditionnel. S'il a été détourné, doit-on se détourner des états généraux? Alors que la grande peur du pouvoir politique à l'heure actuelle, c'est la réunion des états généraux sur un problème qui gêne tout le monde et qui gêne toute la classe politique. Nous avons toute la classe politique a peur de la réunion des états généraux parce que c'est un problème institutionnel en France, les états généraux, qui date non pas de la République, mais qui est aussi de la royauté, soyons sérieux. Alors il faut sortir de ces cancers intellectuels. Et je suis d'accord avec Huit, mais il faut, pour sortir de ces cancers intellectuels, il faut des idées. Et il faut des idées qui regroupent et non pas qui divisent. Voilà. Alors, je c'est vrai qu'il y a longtemps que nous sommes passés, j'ai entendu beaucoup de gens parler de tout et de rien.
De rien, il n'y en a pas eu beaucoup quand même.
De rien ? Oh, mais mon cher Chel, si tu savais. Non, ce que je veux dire par là, c'est pas par rapport à Radio Courtoisie, mais de tout et de rien, par rapport à un ensemble de, que l'on entend depuis deux mois dans la classe politique, quelle qu'elle soit. Donc, je voudrais. Donc, nous avançons une action, encore une fois, concrète, précise, mais qui s'appuie sur un argumentaire juridique que nous vous développons. C'est que les États généraux, c'est vrai qu'ils créent la République. Mais pourquoi nous. Nous pourrions-nous pas, avec les États généraux, faire autre chose? Et pourquoi la classe politique, dans son ensemble, à l'heure actuelle, qui a le pouvoir législatif et exécutif, a peur d'une réunion des États généraux? Parce que c'est l'acte constitutif de la République. Alors, pourquoi ils ont peur de nouveau des États généraux sur l'immigration, intégration? Demandez-leur. Demandez-leur pourquoi. Parce qu'ils savent que c'est un instant de l'histoire qui a détruit une partie de l'histoire de France, pour en détruire, pour aller plus loin dans la destruction de la France. Et dans son origine et dans son identité. Voilà pourquoi ils ont peur de la réunion des États généraux du peuple français sur l'immigration et l'intégration. Alors, c'est simple. Jamais dans l'histoire de France, et ça je vais vous le lire parce que c'est le document que nous envoyons au maire, il n'a existé, et il faut bien comprendre que c'est une volonté économique, il n'a existé une telle volonté politique d'organiser par une immigration économique. C'est une immigration économique qui n'a rien à voir avec la France. La remise en cause des grands équilibres humains, non seulement de la France, mais fondateur des nations européennes, nous l'avons vu à Nice. Ces immigrations revendiquent ce qui est extraordinaire.
Alexandre, je t'interromps une seconde. Oui. On est obligé de faire la coupe technique, la pause technique. Je te redonne la parole dans quelques secondes.
Très bien.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 3h27. Dans quelques instants, la seconde partie du libre journal de Serge De Becketch d'hier soir.
Thank you.
C'était un soir à Paris et amusez-vous par l'ensemble sortie d'artistes sur un disque compact Les Vers Luisants, LVL 46001. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 3h30. Voici la seconde partie du libre journal de Serge de Beketch d'hier soir. Très bonne fin de nuit à tous.
Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 décembre 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Volontaires et officiers blancs, et votre agonie cruelle, la honte.
Voilà, Alexandre Chabanis, tu peux continuer ton...
Voilà. Alors je disais justement, jamais nous avons vu dans l'histoire de France récente, par exemple les Polonais, les Italiens, les Arméniens, se constituer en communauté d'intérêt économique et demander des droits supérieurs à ceux des Français pour être intégrés. Jamais on a vu dans l'histoire de France des gens dire « nous avons besoin d'argent pour nous intégrer ». Quel est ce système ? Ces immigrations revendiquent des droits socio-économiques, des droits communautaires, qu'à ce jour, aucune communauté européenne s'expatriant d'un pays européen à un autre pays européen n'avait revendiqué, allant jusqu'à faire dépendre d'un facteur économique l'octroi de la citoyenneté française et des citoyennetés européennes. Voilà ce qui est en train de se passer. Jamais, messieurs les socialistes, monsieur Chirac, voilà ce qui est en train de se passer. C'est une citoyenneté économique que vous mettez en place. Ça n'a rien à voir avec la France. Jamais dans l'histoire de France, les Français n'ont été soumis au paiement d'un impôt spécial afin d'entretenir ces politiques dites de colonie de peuplement, incapables de s'intégrer à la société française sans l'assistance de cet impôt. Parce que c'est ça la réalité. Sans l'impôt que nous payons pour intégrer ces gens-là, ils ne peuvent pas s'intégrer naturellement à la société française. Impôt qui masque les échecs sociologiques des politiques d'intégration. Alors je veux dire par rapport à ceci, quand j'entends les discours d'unité, quand j'entends les discours sur la France, si, à l'heure actuelle, les Français, il faut repartir sur des bases structurelles nouvelles, et pour repartir sur des bases structurelles nouvelles, il faut avant de vouloir créer une structure, il faut s'unir sur une idée, il faut aller aux États généraux, il faut aller aux États généraux sur l'immigration-intégration.
Alors justement, quelle est la disposition pratique, nouvelle, que tu as entreprise à propos
alors,
des États généraux?
Disons ceci, que pour imposer le retour à la paix civile en France, puisque c'est de ça qu'il s'agit, nous invitons les maires de France et les élus municipaux à appeler à la réunion eux-mêmes des états généraux sur l'intégration et l'immigration, puisqu'ils subissent eux-mêmes. Ils disent, on n'a plus de pouvoir devant la violence, on n'a plus de pouvoir dans les écoles. Eh bien, appelez aux états généraux. Alors, quel sera le but de ces états généraux dans les questions qui sont posées aux maires? Le but des états généraux, c'est de décider des questions référendaires qui devront être posées par référendum au peuple français. Et deuxièmement, le fonctionnement du référendum d'initiative populaire. Les états généraux vont définir ce qu'est le référendum d'initiative populaire. Donc nous avons créé un questionnaire sondage demandant aux maires et aux élus de dire oui ou non. Alors oui au nom de l'état général du peuple français, de l'intérêt général du peuple français, dites-vous, au nom de l'intérêt général du peuple français, nous appelons à la réunion des états généraux sur l'intégration et l'immigration qui définiront l'appel au référendum.
Donc l'objectif, c'est de faire parvenir aux 36 000 à peu près maires de France,
oui,
un message par écrit,
en oui leur disant... Non, comme on est interrogé, nous, voilà, dans nos, voilà, référendums.
Dites oui ou non, êtes-vous favorable, dans l'intérêt national du peuple français, êtes-vous favorable à la constitution d'états généraux, à la réunion d'états généraux sur l'immigration et l'intégration? Répondez par oui ou par non.
Et qui définiront ces états généraux? L'appel, voilà, au référendum d'initiative populaire.
Alors, pratiquement, comment cette chose-là peut-elle se faire?
Alors, le non... Parce qu'on leur demande de dire oui ou non, comme
ça,
nous, quand
clair,
on est interrogé à un référendum, il faut leur demander oui ou non. Et
oui,
le non, on leur dit, s'ils refusent, je refuse l'appel à la réunion des états généraux sur l'immigration, et je refuse donc le référendum d'initiative populaire que demandent les Français.
Je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'une non-réponse, c'est considéré comme un refus.
Parce exactement, que... c'est ce qui est marqué dans le questionnaire.
Voilà.
Si vous ne répondez pas, messieurs, c'est que vous êtes contre le référendum d'initiative populaire, et le peuple français doit choisir. Et comme il va choisir,
pratiquement,
alors, c'est envoyé à 36 000 maires de France.
Si quelqu'un veut participer à cette opération, qu'est-ce qu'il doit faire sur le plan pratique?
Alors, il faut qu'il nous demande les documents, le document initial. Il faut que ce document initial, eux peuvent très bien l'envoyer à des maires de communes. Ils feront une note sur les maires à qui ils enverront.
Oui.
Ils peuvent aussi nous envoyer des moyens financiers, parce que ça fait 36 000 lettres envoyées, avec un questionnaire, bien entendu, le questionnaire référendaire qui a été modifié, que beaucoup de gens de Radio Courtoisie ont reçu, mais qui a été modifié, dans lequel, de manière précise, nous avons programmé le calendrier de la réunion des états généraux. Pour que les gens comprennent bien, nous n'avons pas mis les dates, parce que je pense qu'on est suspendu à l'inertie à l'heure actuelle, l'inertie de la classe politique qui a bloqué ce peuple, mais on peut le débloquer, donc il y a en même temps, nous joignons aux maires le calendrier de l'action.
D'accord.
Les états généraux.
Bon.
Donc, il y a deux solutions. Nous envoie les moyens pour poursuivre cette action et la lancer à un niveau supérieur. Deuxièmement, prendre, nous appeler ou nous envoyer les moyens aussi pour vous-même développer l'action à l'intérieur d'un département, d'une ville, d'un...
C'est-à-dire que si quelqu'un demande plusieurs dossiers en s'engageant à les faire parvenir à des maires,
voilà,
tu leur envoies, enfin,
Alors,
l'association leur enverra des...
Pour bien montrer la réalité de cette action, qui est la seule action globale qui va nous emmener aux états généraux, parce que nous allons y aller, je dis bien à la fin, alors nous disons ceci. Ce questionnaire est adressé à tous les maires de France. Cette campagne nationale est engagée par les Français à titre individuel. Et c'est ça votre force. Parce que nous sommes des millions, nous sommes majoritaires et nous sommes toujours divisés alors que nous sommes des millions. Nous demandons aux élus de retourner le questionnaire rempli avant le 1er mars 2001. Les réponses faites par les maires ou l'absence de réponses seront l'objet d'une analyse qui donnera lieu à une orientation de vote pour les élections municipales. C'est-à-dire que nous dirons, les maires qui ne veulent pas d'un référendum d'initiative populaire sur l'immigration étrangère. Et ça, c'est pareil. Il faut créer cet onde choc. Obliger les maires qui pleurent toute la journée et qui pleurent dans leurs écoles parce qu'elles se font brûler et que il faut faire cette action. C'est une action globale, c'est une action unitaire.
D'accord.
C'est une action qui touche tout le monde.
Entendu, c'est clair.
Alors,
l'adresse à laquelle on doit envoyer un mot pour se signaler ou téléphoner pour participer à cette opération?
Alors, je demande aux gens d'oublier toute leur rancœur, mettez-vous en mouvement.
D'accord, c'est clair.
N'attendez pas les ordres. Mettez-vous en mouvement, mais agissez, n'attendez pas. Alors, simplement, vous demandez les papiers à mon nom, ou Alexandre Chabanis, ou au FLN, Front de Libération Nationale, qui est d'actualité d'ailleurs, avec les événements d'Algérie, 34 Grande Rue, Bessancourt, 95-550.
Okay.
Téléphone fax 01-30-40-03-71. Serge, je t'en supplie, je vous en supplie, monsieur de Becquet. À la fin de l'émission, pourrais-tu rappeler les coordonnées? Tu ne le fais jamais.
Ok, bah on le fera.
Merci, Serge.
Merci, à bientôt. Voilà, donc je crois que c'est clair, il s'agit de mener une opération de lobbying, c'est comme ça que ça s'appelle, auprès des maires de France, pour les obliger à prendre position sur cette question, qui est une question évidemment cruciale. Qu'est-ce que vous voulez dire,
Je pourrais peut-être faire les petites annonces que j'ai.
Oui, faites donc ça, tiens.
Parce que tout de suite, comme ça après, ce sera net pour l'émission. Alors, au Café Métaphysique, le vendredi 22 décembre, à 20h, au premier étage du Café de la Mairie, 8 place Saint-Sulpice, dans le 6e, Noël et le mystère de l'incarnation. Par le père Jacques Nissen, conférence animée par Christophe Levallois. Et puis Noël 2000, la messe de minuit pour l'ouest de Paris, à la chapelle de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, en face du parking de la mairie. Entrée, enfin veillée à partir de 23h et messe de minuit.
Avec beaucoup
de chants, oui, 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 oui. Mm-hmm. De chants d'autrefois. Libellé, alors, pour le père Argouache, le libellé d'échec doit être scout et guide de Riaumont, et son adresse est père Argouache, A-R-G-O-U-A-R-C, apostrophe H, Argouache.
Argouache, on ne peut pas faire plus simple.
Village d'enfants.
C'est presque aussi simple que de Beckett.
Village d'enfants de Riaumont, boîte postale 28 62 801, à Liévin-Cedex. Pour Roger Olindre, il reste encore des places pour son réveillon de la Saint-Sylvestre au château. Vous pouvez téléphoner pour les renseignements au CNC Paris 01 40 59 07 66. Alors vous pouvez téléphoner demain jeudi ou la semaine prochaine, mardi et mercredi. Pour réunir le Front National et le MNR, la coordination existe. Vous pouvez les joindre par adresse électronique. En un seul mot, la coordination, @yah2o.fr. Et par adresse normale, résistance, boîte postale 60-426, 44 004, Nantes, CEDEX 04. Monsieur de Beketch, pour le livre journal de la France courtoise, il s'agit bien du 4 Place France Lys.
C'est cela même. Quelle surprise que vous posiez cette question. Je suis tout à fait pris au dépourvu.
Mais oui, c'est un auditeur qui le demande. Oh, et un auditeur que j'ai sélectionné.
Oui, entre 1000.
Mais 75 010 Paris. Le téléphone 01 45 23 51 01. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent vous envoyer un carnet de timbres.
Oui,
un carnet de timbres. Oui. Et ils recevront un exemplaire de votre journal.
C'est cela même. Il peut même s'abonner pour le prix absolument dérisoire de 700 francs, payable en autant de fois que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous nous envoyez des sous, puis nous, on vous envoie le journal.
Et attendez, il y a la dernière chose. L'adresse pour commander le livre de Martin Pelletier, J'ai choisi la bête immonde, c'est ICM, boîte postale 1162, 75 920, Paris CEDEX 19, pour le prix de 150 francs franco.
Alors, je peux dire, j'ai pas lu le livre, mais la couverture est superbe.
Elle est très jolie.
Elle est belle, on dirait du marbre avec une espèce de silhouette de loup, ou plutôt de louve, puisque c'est du marbre. Donc, c'est une louve romaine qui montre les dents. C'est superbe. À propos du libre journal, je voudrais signaler que c'est le numéro 225 qui est sorti tout à l'heure. Ce sera le dernier numéro de l'an 2000. Le numéro 226 sera le premier numéro du millénaire. Du nouveau millénaire, le troisième, le meilleur.
Pour moi, il est commencé depuis un an.
Oh, bah oui, mais vous êtes tellement âgé, ma pauvre Victoria, que les millénaires avec vous commencent bien plus tôt. Alors, dans ce numéro, il y a un papier que je trouve très intéressant, parce que c'est moi qui l'ai écrit, sur un aspect du racket d'État. Vous savez, l'histoire des pots de vin, des collèges, la construction des lycées et collèges de l'Île-de-France. Il y a un aspect qui a été totalement passé sous silence. Alors, je ne vais pas vous le dévoiler, autrement vous n'achèterez pas mon journal et je n'y gagnerai rien. Mais je crois que c'est intéressant. Et il y a également un papier qui est très très intéressant, c'est celui qui publie les vrais chiffres du génocide par avortement en France. Et c'est vraiment effrayant ce qui est en train de se passer. Il y a la liste des députés dit de droite, de goitre, comme on dit, et de droche, mais de goitre en l'occurrence, qui ont voté pour l'extension de l'avortement à 12 semaines, la distribution de la pilule aux petites filles, l'avortement gratuit, remboursé, obligatoire, et toutes sortes d'autres cochonneries du même genre. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis alors, il y a le retour de Marie-Claude Monchaud qui propose deux pages superbes sur les beaux livres.
Oh oui.
Pour les enfants. C'est joli, hein?
Oui, oui.
Alors, il y a plein de petits livres ravissants.
Il y a des jolis titres, oui.
Les aventures des souris des quatre saisons, La maison de l'escargot, une édition des malheurs de Sophie chez Grasset, avec des illustrations naïves qui sont superbes. Et puis alors, il y a une chose qui est une pure merveille, qui est parue chez Casterman, ça s'appelle L'Atlas de géographie d'Orbach, par François Place. C'est trois volumes. trois volumes grand format, illustrés, qui sont vendus soit à la pièce, soit en coffret. Ça fait, le coffret est assez cher, c'est 555 francs, mais ce sont de pures merveilles. C'est une géographie imaginaire, et c'est admirable. C'est d'une beauté incroyable. C'est vraiment, je voudrais bien avoir ce livre-là. Si les éditions Casterman pouvaient m'en faire l'hommage, après ce que je viens d'en dire, ça serait pas...
Mais pour les éditions aussi, la librairie du rue du Petit Pont, qui s'appelle maintenant France Livre,
oui, pour moi, ça reste la librairie Saint-Nicolas.
Il y a un très joli livre aussi qu'on nous a présenté la semaine dernière, c'est L'Épouvantail.
Ah,
il est beau comme tout, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et puis on a publié, en guise de conte de Noël, une lettre qui est envoyée. Alors ça va étonner dans un journal de résistance catholique qu'on publie une lettre d'un pasteur de la confession d'Augsbourg, enfin plus exactement de l'église de la Réformation, l'église de la confession d'Augsbourg, d'autant que ce pasteur, non content d'être protestant, est arabe. Alors vous voyez, là on est en plein, c'est quelque chose de terrible, je ne sais pas comment je vais m'enlever, et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Bethléem. Ce qui se passe en ce moment à Bethléem. Il y a 2000 ans, on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Et il s'y passe que, par exemple, les hélicoptères israéliens poursuivent les enfants à travers qui tentent de s'enfuir à travers les vergers pour leur tirer dessus. Vous verrez, c'est un joli conte de Noël. Malheureusement, il finit moins bien que d'habitude.
Attendez, je me suis trompée tout à l'heure. Enfin, le père Arquache nous a donné un numéro, mais que j'ai mal retranscrit. L'adresse du village d'enfants de Riaumont, c'est boîte postale 28, 62 601, Liévin-Cedex. Voilà.
Merci à tous, merci de votre patience. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet. On parle
de la Serbie.
De la Serbie.
Et du président Kostunica qui est à Paris demain.
Alors, il est bien Kostunica ou pas? Voilà, c'est la question que je me pose.
C'est la question que je vais poser aux invités qui sont présents sur le plateau.
C'est Arnaud Guillaume-Janin qui parle.
Voilà, exactement.
Alors moi, comme la Serbie, j'ai beaucoup donné.
T'as beaucoup donné, oui.
Je vais moins donner ce soir, peut-être. Non pas que ça m'intéresse pas, mais... Mais je pense qu'il faut faire abstraction de toute émotion, et moi je suis pas capable à propos de la Serbie de faire abstraction de l'émotion. Je pense qu'il faut en parler d'une façon sérieuse, historique, étayée, politiquement informée, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi j'aime les Serbes, point à la ligne.
Mais moi aussi.
Je ne reviens pas là-dessus. La question que je me pose, c'est est-ce que Kostunica est bien ou pas? Alors je vais écouter ce que vous allez dire, puis me ferai une idée après.
Ben, c'est gentil Serge, merci. Alors, bonjour chers auditeurs, donc au micro Arnaud Guillaume-Janin pour une nouvelle émission chez Serge de Bekech. Nous allons parler essentiellement aujourd'hui précisément donc de la nouvelle Serbie du président Kostunica qui est à Paris demain et qui est reçu par Jacques Chirac à l'Elysée. Et je voudrais juste avant faire deux petites annonces pour signaler une conférence de Daniel Raffard de Brienne qui se tiendra le 11 janvier à 20h30 à la SEIN, 4 place Saint-Germain-des-Prés, 75006 Paris.
C'est un joli nom, c'est facile à retenir.
Oui, mais maintenant tout le monde va là en plus. Et c'est sur le livre qu'il a publié aux éditions Rémi Perrin, La Bible trahie.
Très dont
tu as rendu compte d'ailleurs dans le Libre Journal, l'avant-dernier numéro.
Excellent livre, très intéressant sur les méthodes de falsification et de désinformation qui fonctionnent aussi sur la Bible.
Donc rendez-vous tous à la conférence de Daniel Raffard de Brienne le 11 janvier à 20h30, 4 place Saint-Germain-des-Prés sur la Bible trahie. Deuxième petite annonce pour parler de la prochaine conférence du cercle Sol Invictus qui sera animée cette fois-ci par Koum Carpentier de Gourdon, qui est d'ailleurs un collaborateur du Libre Journal qui devait être présent aujourd'hui mais qui malheureusement ne pourra pas être présent parce qu'il est retenu en Suisse, malheureusement.
Ça pas possible.
Eh ben si. Alors donc on va.
Ça c'est un des cerveaux les plus puissamment musclés qui m'a été donné.
Moi je conseille vraiment aux auditeurs de Radio Courtoisie de venir à cette conférence parce qu'ils vont avoir à mon avis l'intelligence, la culture, la subtilité, tout ça synthétisé en une personne.
Il faut voir le personnage.
Il faut voir le personnage.
Qui est un personnage d'une autre époque. C'est un personnage du 18e siècle, d'un extraordinaire raffinement, qui était très posé, très élégant, et avec une intelligence lumineuse et extraordinairement moderne. Enfin, moderne dans les meilleurs sens, au meilleur sens du terme.
Très distingué.
C'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui étudie énormément, qui vit à moitié aux États-Unis, à moitié en Suisse, à moitié en France, ce qui l'oblige d'ailleurs
à Rome aussi beaucoup.
À prendre, il a très peu de temps parce que comme il vit trois moitiés, quand même, ça l'occupe beaucoup. Et il arrive à faire des papiers dans le Libre Journal, dont certains lecteurs me disent parfois qu'ils sont un petit peu trop...
Hermétique.
Pas hermétique, mais d'un niveau scientifique un petit peu fort quand même.
Ouais.
Mais en fait, moi, il m'est arrivé de les comprendre, donc je pense que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Il faut faire un tout petit effort. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable.
Et alors, il nous parlera le vendredi 26 janvier 2001 à 20h des grands mythes orientaux dans l'Ancien Testament.
Alors, il faut que je dise qu'il n'est pas agnostique du tout. Hein. C'est
non,
un catholique de tradition, tout ce qui est le plus rigoureux.
Comme nous tous.
Voilà.
Comme nous tous. Nous sommes tous des catholiques de tradition.
Le sujet, les grands mythes orientaux dans l'Ancien Testament, ça sent quand même un peu le roussi.
Ah, tu trouves?
Oui.
On va essayer de déroussir ça le 26 janvier à 20h, donc à la SEIN, toujours au même endroit, 4 Place Saint-Germain-des-Prés, donc conférence de Côme, Carpentier de Gourdon, les grands mythes orientaux dans l'Ancien Testament. Nous allons... juste avant de parler donc du sujet de ce soir, c'est-à-dire de la nouvelle Serbie du président Kostunica, avoir Michel Marmin en ligne pour nous parler de Gérard Blin qui est décédé dimanche dernier, et puisque Michel Marmin a été son co-scénariste sur deux films, eh bien je pense que Michel Marmin devrait être content de pouvoir intervenir. Nous ne l'avons pas en ligne pour l'instant, mais on va l'avoir d'ici quelques minutes.
Donc, ça me permet de faire deux réflexions qui nous viennent d'auditeurs. Et je ne voudrais pas en priver les autres auditeurs, parce que c'est quand même intéressant. Alors, Arnaud Guillot-Janin, ami de la Gnose, bonsoir. C'est bientôt Noël et on s'attend à voir apparaître les mages. Mais ce soir, avec vous, ce sera un plateau de fromage.
C'est marrant, très marrant.
C'est amusant.
Très drôle.
Ça fait plaisir. Je pense que tes invités vont être contents.
Ils vont être très contents.
C'est pas du tout des mages ni des fromages. Les invités de ce soir sont des gens sérieux, comme d'habitude d'ailleurs dans cette émission. Et la meilleure question à propos de la réunion de Sol Invictus qui se passe au SEIN
le 26 janvier.
Un auditeur pose une question, alors là, qui me paraît sérieusement faire problème quelque part, et c'est la suivante. Comment se fait-il que votre ami Levallois, donc qui est la puissance invitante...
qui anime en tout cas les cafés métaphysiques,
et
comme moi j'anime Sol Invictus.
De 40 francs.
De 40
alors
francs.
Cet auditeur demande... Comment se fait-il que votre ami Levallois demande un droit d'entrée de 40 francs alors qu'il a toujours été convenu que Levallois paierait?
Ah, c'est très marrant. C'est très très drôle. Mais je signale quand même que c'est moi qui demande une entrée.
Mais ça marche pas, Guillot-Janin.
Mais Guillot-Janin, malheureusement, le jeu de mots ne fonctionne plus.
Il paraît que tu payes quand même.
Il paraît que je paye. Ouais, je paye cher pour Noël. Merci Serge. Est-ce que nous avons Michel Marmin en ligne? Je vois peut-être. De toute façon. On devrait être mis en contact d'ici quelques minutes. Alors, je présente mes invités très rapidement. Il s'agit donc de Mila Aleković, présidente du Conseil représentatif serbe pour la coopération avec l'État yougoslave, qui est également professeur en psychologie, et Yves Bataille, directeur de publication de la lettre géopolitique. Mais on me dit que nous avons Michel Marmin en ligne. Donc, je prends Michel Marmin. Allô, Michel ?
Oui,
bonjour.
Bonsoir plutôt.
Bonsoir. Alors, je sais que vous étiez à l'enterrement de Gérard Blin aujourd'hui, qui est donc décédé dimanche dernier. Vous étiez un de ses très très bons amis, puis aussi son co-scénariste sur deux films, Pierre et Jemila, et le dernier, Ainsi soit-il. Vous le connaissiez depuis combien de temps ?
Depuis 30 ans.
30 ans.
Depuis 30 ans, en fait, j'ai fait sa connaissance lors de mes tout débuts de critique de cinéma à Valence Actuelle. Bon, en réalité, c'était en 71 d'ailleurs. Enfin, ça va faire 30 ans dans quelques semaines.
Oui. Hein, alors, est-ce que vous avez connu donc Gérard Blin dans les conditions d'un critique de cinéma, ou vous l'avez connu tout simplement par les films que vous aviez vus comme acteur?
Tout à fait, parce qu'il se trouve que son tout premier film... comme réalisateur, qui s'appelle Les Amis, m'avait beaucoup touché, et c'était d'ailleurs l'une de mes toutes premières critiques, hein, à Valence Actuelle, et le film m'avait touché, et ma critique apparemment l'avait touché, puisqu'il a tenu à prendre contact avec moi, et le courant est tout de suite passé, et nous sommes très rapidement devenus de grands amis, et nous avons fait beaucoup de choses ensemble, hein. Non seulement les deux films que vous avez cités, mais nous avons écrit au moins deux ou trois autres scénarios qui malheureusement n'ont pas été tournés.
Vous travailliez avec lui à l'époque de quelle manière? Parce que vous étiez scénariste, lui co-écrivait avec vous.
Je dirais que c'est plutôt l'inverse, hein, parce que, pour dire vraiment la vérité, tous les films que j'ai fait avec lui, il en était l'auteur à 100%. C'est lui qui avait une idée de film, une idée de scénario. Et, bon, je, dirais pas, je vais pas être trop modeste, je vais pas dire que je lui servais seulement de porte-plume, mais enfin je l'aidais à mettre en forme ses propres idées, à les formuler, à les écrire, et un dialogue extrêmement fécond, très positif et amical aussi se nouait entre nous, et ça se passait très bien parce que je connaissais tellement bien, enfin parce que j'ai travaillé avec lui assez 10 ans après l'avoir connu, hein, donc je le connaissais si bien que, et je connaissais si bien son cinéma que je, enfin sans vantardise, je savais comment écrire une scène parce que je savais comment il allait la filmer.
Oui.
Et donc il n'y a jamais eu la moindre difficulté entre nous de ce point de vue-là. Et d'ailleurs nous travaillions très très vite, un peu trop vite d'ailleurs,
parce que
souvent quand nous avons terminé un scénario, au bout de 4 ou 5 semaines, c'est à peu près la moyenne, on le laissait dormir et puis on le reprenait un ou deux mois après. Et puis alors là on retravaillait, c'est-à-dire ça consistait surtout d'ailleurs à épurer, hein, parce que quelquefois il y avait des dialogues un peu redondants, des scènes dont on s'apercevait qu'elles étaient inutiles. Enfin, c'était un travail de décantation, de condensation, et ce qui allait tout à fait dans le sens de sa mise en scène, hein, qui va toujours droit à l'essentiel, qui ne s'encombre pas de fioritures décoratives ou anecdotiques. Et enfin, l'entente, je dois dire, était parfaite. Hein,
Très souvent,
il me disait, il allait dire quelque chose et je lui soufflais la phrase avant qu'il l'ait dite.
Vous étiez un peu son Pygmalion.
Non, je dirais pas ça. Non, c'était vraiment une entente, hein, une entente parfaite. Et il se trouvait que je comprenais très bien et je trouvais assez spontanément soit la phrase de dialogue, soit une articulation de dramatique qu'il recherchait, qui était la sienne. Hein.
Mais alors justement, dans Ainsi soit-il, son dernier film, il y a quand même quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il y a un gros plan au tout début du film sur une tombe où on voit un trou et où on voit déverser de la terre dans ce trou, et cela fait penser évidemment à un testament d'une certaine façon un an avant sa mort, puisque
oui,
le film est sorti il y a un an. L'idée était de vous ou l'idée était de lui?
Non, tout à fait de lui. Et c'est tout à fait saisissant, cette espèce de prémonition, mais c'est une prémonition inconsciente, parce que je peux vous dire que on a trop dit d'ailleurs que ce film était un film testament parce que c'était l'histoire de la mort du père, etc. Dans ce livre, c'est absolument pas un testament. Ça le faisait bondir d'ailleurs, parce qu'il avait bien l'intention de faire d'autres films. Mais je dois dire que effectivement, j'ai d'ailleurs eu le sentiment, et j'étais pas le seul d'ailleurs, parce qu'on était à peu près 150 ou 200 personnes, ses amis à ses obsèques ce matin, j'ai eu vraiment l'impression de revivre cette scène, hein, de la revivre en vrai. En plus, son fils, Paul Blin, qui joue le rôle principal dans Ainsi soit-il, était là évidemment ce matin, donc il a cette scène était une répétition de ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein.
Alors, il y a une deuxième chose qui l'énervait prodigieusement aussi, c'est qu'on dise qu'il s'inspirait de l'œuvre bressonienne. Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher non plus de constater qu'un an jour pour jour, Bresson est mort. C'est quand même incroyable. Oui, je vous entends.
Je vous demande une seconde parce qu'il faut que je rebranche mon téléphone.
Ah d'accord. Vous nous entendez?
Allô?
Voilà, oui, c'est bon.
Oui, alors ça, c'est aussi assez impressionnant. À un jour près, quand même. À quelques heures près, un an après Bresson, effectivement, elle est disparue. Alors, effectivement, ce n'était pas un disciple de Bresson, comme on l'a dit. Qu'il ait été influencé par Bresson, c'est incontestable, hein, dans sa manière de concevoir le cinéma, en tout cas. Hein. Cela dit, ses films étaient différents, la sensibilité n'était pas la même, le message non plus n'était pas le même, mais il y avait un air de famille que l'on ne peut nier, qu'il ne niait pas, d'ailleurs.
Oui. Et alors, il y a quelque chose aussi qui était très sympathique chez lui, c'est que c'était un homme engagé, sinon politiquement, en tout cas intellectuellement, et qui, notamment pendant le conflit d'agression contre la Serbie, avait signé la pétition du collectif Non à la guerre, comme vous, Michel Marmin, du reste, et qu'il était très très souvent hostile à l'ingérence américaine en Europe. Et moi, je l'ai vu avec vous faire des dithyrambes ou des critiques très radicales de l'hégémonie américaine, qui était véritablement un régal.
Ah oui, bah il a publié un certain nombre de textes, notamment dans Le Monde, très 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 féroce, très très véhément, parce que c'était quelqu'un de véhément, c'était un passionné, un écorché vif, et il ne supportait pas la culture américaine. Ça, c'est quelque chose qu'il avait vécu, puisqu'il a vécu Hollywood un certain temps. Il en est revenu dégoûté pour la fin de ses jours, et tout ce qui pouvait marquer une influence la culture américaine chez nous le rendait malade, hein. Enfin, le rendait pas malade, au contraire, ça le maintenait en une espèce de tonus d'agressivité. Oui. Son engagement était un engagement moral, hein, surtout, je dirais, oui, même éthique, en fait, oui, hein, plus que politique, parce qu'il n'avait pas d'idée politique, hein, ça, faut être très clair là-dessus.
Oh, ben, il avait même la sincérité de dire qu'il était politiquement con.
Oui, c'est ça. Alors, il n'était pas du tout con, hein, politiquement ni autrement,
mais
il ne voulait pas, il était incapable d'avoir un engagement politique, de parti, de choses comme ça, ça ne s'intéresse absolument pas. Et c'est pour ça pour laquelle il était prêt à se battre avec n'importe qui contre le même ennemi, quand même. Hein.
Alors, c'est sûr que... pas son testament, mais disons que pour lui rendre hommage et pour rendre hommage également à Vladimir Dimitrievitch, le patron de l'âge d'homme, vous avez publié un petit ouvrage qui s'intitule Le chemin d'ailleurs et de Damas, qui est un recueil de poèmes. Et oui, il y en a un notamment qui est dédié à Vladimir Dimitrievitch, et je pense que Gérard Blin aurait pu tout à fait le cautionner. Cela va pouvoir peut-être nous introduire dans l'émission que nous allons faire précisément sur la Serbie. Michel Armand, je vais me permettre juste de lire ce petit poème, et pour rappeler donc que vous avez publié ce livre, Chemin d'ailleurs et de Damas à l'âge d'homme, qui est un très joli petit livre avec des poèmes très 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 beaux, et donc avec ce poème qui s'intitule 1918. Je vais donc lire ce poème et je vous remercie, Michel.
Merci.
À très bientôt.
Au revoir.
À Vladimir Dimitrievitch, au pied de la butte où Foulque Néra bâtit le château qui veille au glaïeul de la vallée, les petits collégiens réfugiés de Serbie regardent les Prussiens chenis et soulagés qu'encadre une section de fiers territoriaux. Ils pensent à leurs rivières, à leurs bois, à leurs feux, à leurs chansons, aussi que même les rios de la maison Marmin, il n'est de plus fameux, n'ont su faire oublier. Mais quand ils reviendront dans leur maison meurtrie, ils auront pour bagage les mots de Rabelais et ce petit breton que l'on boit à Beaufort, en tout bon voisinage, et qui, après la boule, a scellé l'alliance de la brave Serbie et de la douce France. C'est un poème que Michel Armin a publié le 24 avril 2000 et qu'on peut retrouver donc dans ce petit recueil « Chemin d'ailleurs et de Damas » à l'âge d'homme, que j'engage tous les auditeurs à se procurer. Voilà, maintenant nous rentrons dans le vif du sujet pour parler de Kostunica et de la Nouvelle-Serbie. Donc le président Kostunica a livré un entretien au Figaro il y a 48 heures, un entretien fort intéressant, et il s'apprête demain à venir à Paris où il va rencontrer Jacques Chirac. Alors j'ai pour parler ce thème et donc de la Nouvelle-Serbie de Kostunica, Mila Alekovic, que je représente une nouvelle fois, présidente du Conseil représentatif serbe pour la coopération avec l'État yougoslave, professeur en psychologie, et Yves Bataille, directeur de publication de la lettre géopolitique. Alors d'abord, Yves Bataille, j'aimerais vous rendre hommage parce que vous avez été un des premiers dans les milieux de la droite radicale, sinon dans les milieux nationaux révolutionnaires en 1991, au tout début du conflit, à avoir pris fait et cause pour la Serbie, ce qui n'était pas mon cas. J'ai été jusqu'en 1998 assez réticent vis-à-vis de la puissance serbe, et c'est après l'agression contre la Serbie par les Américains que j'ai véritablement compris de quoi il s'agissait. Vous avez été, vous, en revanche, un précurseur. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, dès le départ, vous avez pris parti pour les Serbes contre l'hégémonie américano-occidentale?
Je salue les auditeurs de Radio Courtoisie.
Et j'espère surtout vous entendre, parce qu'on a beaucoup entendu parler de vous dans les médias. Vous avez souvent été calomnié, souvent diffamé par la presse comme Le Monde ou l'événement du jeudi. Aujourd'hui, sur Radio Courtoisie, vous avez toute la liberté de pouvoir parler.
Mao Tse-tung disait, être attaqué par l'ennemi est une bonne chose.
Oui.
Donc, on existe. J'avais réagi dès le début des années 90, car je connaissais un petit peu la situation. Je connaissais le pays, pour m'y être rendu à plusieurs reprises, pour des raisons touristiques, pour aller en Grèce ou à Constantinople. Et j'ai réagi parce que il y avait suffisamment d'indices dès le début des années 90 pour, sinon prévoir ce qui allait se passer, du moins constater qu'on était en train d'agresser un pays et de le démanteler. Un pays certes composite, mais finalement qu'il ne l'était pas plus que d'autres. Un pays sous forme de fédération, donc par définition, un pays présentant des points de rupture possibles et des faiblesses exploitables. Ce qui a été fait est du dedans et du dehors. Certes, les différentes communautés peuplant l'espace yougoslave avaient eu une histoire différente à certains moments, mais ils possédaient un territoire commun, un espace géographique commun, une langue commune, pour la plupart, sauf pour la minorité albanaise et la petite minorité hongroise, et ils auraient pu avoir un avenir en commun. Bon, l'histoire récente en a décidé autrement, mais demain ou après-demain, ça peut encore changer. Aujourd'hui, on a, à cause de toutes les ingérences et des agressions qui n'ont pas commencé avec les bombardements comme contre la Serbie, contre la République fédérale de Yougoslavie en 1999, mais des agressions qui n'ont cessé de voir le jour depuis le début des années 90. Nous avons aujourd'hui un espace morcelé. Nous n'avons pas la paix. Nous avons une situation en attente et les antagonismes n'ont pas été gommés et on les a au contraire dans certains coins exacerbés, et puis les petits États sont entrés dans le grand marché, ce qui n'est pas une grande victoire pour les Européens.
Ce que vous dites là est d'ailleurs répercuté par le président Kostunica lui-même qui, dans le Figaro, répondant à une question de Renaud Girard, dit: on a l'impression que les procureurs du TPI suivent aveuglément ce qu'ont raconté les médias, alors que ces derniers ont été très souvent manipulés. Hein. Pour que le président Kostunica, qui se rend en France, puisse dire cela au Figaro 48 heures avant sa venue, cela montre qu'il a quand même une certaine avis sur la question. La question que je voudrais vous poser, moi, Yves Bataille, c'est que finalement, les différentes revendications, que ce soit la revendication croate, la revendication bosniaque, ont été obtenues par eux. La revendication serbe, en revanche, elle n'a pas été obtenue, et c'est aujourd'hui une horreur que de voir comment le pays se trouve et dans quelle mesure Kostunica va pouvoir peut-être essayer d'y remédier.
Par revendication.
La revendication identitaire et communautaire.
Parce qu'il y a toujours la politique du deux poids, deux mesures. Et ce qui est bon pour les puissances qui veulent dominer la planète, c'est ce qui va dans le sens de leurs intérêts. Il est évident que dans la région, que cela plaise ou non, le seul État constitué, historiquement constitué et debout, c'était et ça reste la Serbie. Pour diverses raisons dont nous pouvons discuter. Les autres sont des entités périphériques qui, je le répète, n'avaient de cesse que d'entrer dans le grand marché, cette Europe qui se cherche et qui n'est pas la véritable Europe. On l'a vu récemment à Nice, qui n'est qu'une addition de morceaux qui partent dans tous les sens et qui est sous la domination des États-Unis d'Amérique.
Alors, Mila Lekovic, vous êtes vous-même une intime du président Kostunica, que vous avez connu, je crois, il y a une quinzaine d'années. Vous êtes régulièrement en Serbie, puisque vous animez là-bas le Conseil représentatif serbe pour la coopération avec l'État yougoslave. Le fait que le président Kostunica arrive demain à Paris, vous avez un sentiment positif ou plutôt négatif? Et surtout, est-ce que vous croyez que l'entente entre Jacques Chirac, président de la France, et le président Kostunica, président de la Serbie, va pouvoir annoncer quelque chose qui vous semble aller dans le bon sens?
Bonsoir d'abord à tous les auditeurs et à nos amis. Je vous répondrai bien sûr tout de suite à votre question. Je dirais tout simplement que c'était très bon. On est entré tout à fait dans la trivialité politique et l'importance, bien sûr. Mais c'était très très important d'ouvrir cette émission avec un poème. Et je dirais au début, que la Serbie reste brave et que la France reste douce. Peut-être brave aussi.
Oui.
Tous les Serbes sont les fils et les filles des poètes. On dit que les Serbes étaient un son d'ailleurs, le son, et le resteront, j'espère, le peuple des poètes, des guerriers aussi, malheureusement. Bon, alors, votre question...
Malheureusement.
Oui, là, on est entré dans une époque de diplomatie. Je suis obligée de dire ça tout de suite comme ça, n'est-ce pas? La diplomatie, c'est quelque chose de très large. Les Serbes sont des guerriers. On était des vainqueurs après la Première Guerre mondiale. La Serbie était grande. C'est ça, la grande Serbie. Après la Deuxième Guerre mondiale, également, c'est les Serbes qui ont emporté, n'est-ce pas? On connaît Hitler, il était perdu dans dans les Balkans et dans la Russie. Bon, aujourd'hui, on est entré dans une époque où la guerre sera plutôt, elle l'est d'ailleurs déjà, psychologique et intellectuelle. Je ne dis pas que la guerre militaire n'existera plus. D'ailleurs, je ne suis pas compétente pour ce domaine-là. Mais je crois que vraiment ça, maintenant, on aura un grand travail à faire et une grande bataille, mais qui sera plutôt une bataille intellectuelle, psychologique, diplomatique dans ce sens-là.
Alors la rencontre entre Chirac et Kostunitsa demain, à votre avis, qu'est-ce que ça peut donner? Et surtout, est-ce que Jacques Chirac va être en mesure de comprendre ce que Kostunitsa a à lui dire? Parce que quand on connaît la prodigieuse imbécilité de Jacques Chirac et l'intelligence et la subtilité de Kostunitsa, je crois qu'il va y avoir une complication verbale entre eux. Et plus largement, de manière moins ironique, à votre avis, qu'est-ce que peut annoncer demain cette venue du président Kostunitsa que vous connaissez personnellement?
Oui, alors j'espère que tout à l'heure on dira un peu plus sur le profil psychologique de notre
nouveau
président,
parler,
bien sûr, bien sûr. Juste pour répondre, parce que je crois d'abord notre nouveau président reste en France 6 heures. Il vient, il reste un tout petit peu et il repart. Donc, est-ce que je crois qu'il faut pas personnaliser dans ces choses-là. Quoique tout est personnalisé déjà, de facto c'est le cas, oui. Surtout en France. Mais à mon avis, est-ce que un personnage français comprendra ou pas que je crois que c'est pas important du tout. La France comprendra le message. Et ce message commence maintenant. C'est un petit début. Notre président arrive le matin, il repart dans l'après-midi. Il aura juste un petit moment pour faire passer un message général au peuple français, je dirais. Il n'est pas venu pour donner un message à un personnage, mais au peuple français. C'est très important parce qu'il l'aurait dit lui-même, ce que je viens de dire maintenant. Je le souligne. Et puis, ça sera tout ce qu'on fait en ce moment est important parce que nous, on s'adresse à une France peut-être qui n'est pas la France actuelle. La France actuelle, pour nous, c'est un passage. On s'adresse à une France éternelle. On s'adresse d'abord à l'Europe et la France en tant qu'un pays qui est au cœur de cette Europe-là, pardon. Et je crois que notre nouveau président regarde les choses comme ça. Donc, est-ce que un personnage, deux ou trois, comprendra le message? Nous aurons tout le monde en partenaire diplomatique dans les années à venir. Moi personnellement, je suis persuadée qu'uniquement la droite traditionnelle française pourrait être notre vrai partenaire diplomatique parce que c'est uniquement cet intérêt-là qui suit, si vous voulez, qui joint l'intérêt de la Serbie, des Balkans et de la Russie. Mais on devra discuter avec tout le monde. La diplomatie, c'est l'art de la discussion avec l'ennemi. Vous savez, c'est très facile de parler avec Ami. Donc, c'est ça qui est important. Il faudrait discuter, respecter l'ennemi en tant que l'ennemi. C'est très clair dans la tête de notre président. Et voilà, c'est un petit peu la réponse à votre question.
Alors, avant d'entrer avec Yves Bataille plus concrètement sur le terrain politique et idéologique et pour savoir un petit peu quelles sont les idées du président Kostunitsa qu'il a pu développer soit à l'oral, soit à l'écrit, est-ce que vous pourriez nous donner un portrait parlé psychologique du personnage Kostunitsa, caractériellement et comportementalement, comment vous paraît-il?
Je vais essayer de le faire. Encore une fois, ma fonction est très difficile ce soir parce que lorsque vous m'invitez en tant qu'écrivain ou une personne engagée, active, etc., tout ça c'est différent. Mais lorsque je dois parler en psychologue ou psychiatre, c'est très difficile parce que pour nous c'est difficile de parler d'un profil psychologique, surtout de vulgariser.
Il me paraît Vous avez trois qualités pour pouvoir en parler. D'abord, vous êtes serbe. Deuxièmement, vous connaissez de près Kostunitsa. Et troisièmement, vous êtes psychologue, ce qui vous permet d'appréhender sa personne.
Ce sont des contingences, ce ne sont pas des qualités. Je n'ai pas choisi la situation, je sais mon contexte, je suis née dans ce contexte. Bon, j'ai choisi certaines choses dans la vie, mais enfin, ce ne sont pas des qualités, c'est tout simplement, c'est comme ça. J'essaierai d'être objective, parce que, également, j'ai déjà dit, c'est un ami de longue date. Il est très difficile d'être objectif. Mais pour simplifier comme ça les choses, quand on parle du profil psychologique d'un personnage, dans notre cas, on part toujours d'un côté d'abord intellectuel et de l'autre côté, donc c'est l'analyse du caractère. de la personne en question. Intellectuellement parlant, je crois que le président actuel a été déjà présenté. C'est un homme très fort, évidemment, intellectuellement. C'est quelqu'un qui... C'est un juriste, c'est un érudit. Sa thèse, j'ai déjà dit ça dans un journal, je ne me souviens plus. Sa thèse de doctorat portait sur le concept de la tyrannie de la majorité dans l'œuvre d'Alexis de Tocqueville. Donc, tout à fait dans le cœur des problèmes de la démocratie et l'antidémocratie. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet, théorique et pratique, qui est dans, tout à fait dans son domaine. Et je pourrais dire tout simplement, tout de suite, qui est très doué pour la politique. C'est un homme qui est né pour la politique, à mon avis. Bon, ça c'est, si vous voulez, intellectuellement parlant, ce que dans le métier, dans le langage technique, on appelle l'aspect cognitif. Bon, enfin, c'est l'aspect intellectuel. De point de vue de son caractère, il est important de dire que c'est un personnage très fort. Les psychologues auraient dit, c'est quelqu'un qui a un moi très fort. Hein. Ça veut dire que le surmoi et le ça se sont très bien développés. Oui. Je signale seulement que ce sont des instances de la personnalité qui se développent jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Donc, pour avoir un caractère, il faut avoir cette structure de la personne. Et je crois que c'est quelqu'un qui est très fort de point de vue caractère et intellectuellement parlant. Quelqu'un qui a un moi très fort.
Cela qui a une identité personnelle souveraine.
Absolument. Cela dit que, aussi, n'est-ce pas, ceci applique cela. C'est la personne qui, donc, a une volonté très forte. C'est quelqu'un aussi qui a une excellente des autres. Nous, on parle toujours de trois types d'intelligence. Vous avez trois types, c'est très simplifié, mais enfin, en gros, ces trois types, c'est l'intelligence abstraite, psychosociale et manipulative. Je crois que tout y est, surtout la deuxième, n'est-ce pas, qui est nécessaire pour le domaine, pour la vie politique. C'est quelqu'un également qui non seulement a des analyses qui sont excellentes de point de vue intellectuel, mais qui a une vision. Je crois que c'est un homme qui a une vision, et je crois que peut-être un jour Monsieur Kostoulissa pourra devenir quelqu'un de je ne citerai pas les noms de l'histoire de la France, mais quelqu'un qui vraiment guidera une Serbie autonome. Dans les Balkans,
qui pourrait être un partenaire efficace et positif de la France et de l'Europe.
Qui est déjà un partenaire, mais qui pourra être un partenaire. Bien sûr, parce que la Serbie dans les Balkans, c'est comme un pays qui est le plus développé en Europe. On connaît, n'est-ce pas, on sait de quoi on parle. Ça, la Serbie, c'est le pays le plus important des Balkans. C'est une factualité. Je veux dire, c'est pas un jugement de valeur. C'est comme ça. Donc c'est aussi un personnage qui n'est pas manipulable, qui n'est pas influençable. Enfin, quand on dit quelqu'un a une forte personnalité dans le langage folklorique, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais pour nous, ça veut dire des choses très précises. Ça veut dire qu'il est non manipulable, très peu influençable, qu'il a sa lignée, sa conduite, que c'est un homme de principe, qu'il a des convictions.
Et puis alors, il y a quelque chose de très marquant. C'est que dans l'entretien dont j'ai fait état au début de l'émission, qui est paru dans le Figaro, lundi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Yves Bataille ou Mila Alekovic, c'est qu'il est à la fois très tranché dans ses positions et en même temps assez nuancé pour ordonner ce tranchage dans la façon qu'il a d'ordonner ses idées. Par exemple, à la dernière question que lui pose René Girard du Figaro, oui. Y a-t-il encore des obstacles à la normalisation de vos relations avec les États-Unis? Le président Kostunica répond, nous allons avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis comme avec la France ou l'Allemagne. Mais c'est vrai, notre politique étrangère est bien plutôt pro-européenne que pro-américaine. Il y a aussi pour nous un autre pays d'Europe important, bien que n'appartenant pas à l'Union européenne, c'est la Fédération de Russie.
Ça
me paraît être un résumé extrêmement important de ce que Kostunica pourra faire dans l'avenir. Yves Bataille.
Oui, il raisonne en termes de géopolitique, et non comme un politicien, comme un vulgaire politicien. Et c'est bien le seul, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il a été choisi, sélectionné par les ennemis et par les amis. Parce que dans cette affaire du 5-6 octobre, et après les élections du 24 septembre, il y a eu un double mouvement. Il y a eu une aide conséquente apportée à l'opposition. Et c'était pas nouveau, ça existait depuis des mois. Une aide conséquente apportée par les États-Unis et par l'Union européenne. Mais il y a eu aussi une action menée à l'intérieur même de la Serbie pour ne pas s'opposer à cela, mais par un mouvement de judo, récupérer le mouvement et le mettre sur les bons rails, avec le soutien de la Russie. Et là, nous y retrouvons. Là, nous ne nous y opposons pas. Là, nous pouvons même être d'accord. Nous sommes dans une période de transition. D'ailleurs, dans l'interview, Kostunitsa parle de cette période de transition où les choses sont un peu flottantes. On y verra mieux après les élections de dimanche prochain. Dimanche ou samedi.
Samedi ou dimanche
ou samedi, oui.
Le 24.
Le 24.
Pour le Nord. C'est un petit peu...
Mila Lekovic.
Si vous voulez, comme la question dans les journaux, dans les gazettes en France, vous avez des articles à gauche, à droite, sur l'argent qui était entré dans le pays pour financer ceci, cela. Moi, j'arrête tout de suite et je dis, ce n'est pas l'important qui, d'où vient l'argent. Ce qui est important, c'est qui l'utilise. La Serbie saura utiliser maintenant ce qu'elle a. D'ailleurs, c'est un pays très, très riche, un pays qui a une position géopolitique très importante dans les Balkans. On verra. Je crois d'ailleurs, sans croyance, sans foi, rien n'existe, que nous, on est entrés maintenant dans une nouvelle période. Et puis, ce que je dis toujours, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Vous savez, quand j'ai parlé du personnage en disant forte personnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement savoir parler, discuter, mais ne pas pardonner une comment dirais-je, je parle la langue qui n'est pas la mienne quand même, ne pas pardonner cette poussière vengeresse de l'Ancien Testament dont la Serbie était couverte ces derniers temps.
Ni pardon, ni repentance.
Ni bataille.
Il faut que les casseurs payent, comme on disait en France il y a quelque temps. Et la Serbie est riche, certes, elle a un potentiel, notamment dans le sous-sol, avec de nombreuses mines, mais elle a quand même été fortement détruite dans ses infrastructures, qui étaient d'ailleurs des infrastructures anciennes et vieillottes. Donc il faut reconstruire. Mais je pense qu'il faut exiger des réparations. Des réparations de la part des gens qui ont attaqué, agressé un pays qui ne leur avait rien fait.
Alors, il y a une remarque d'auditeur qui nous traite de serbes bolcheviques. Ce qui est assez amusant, c'est l'expression qu'utilise Alain Sanders dans Présent. Nous avons été plusieurs pendant l'agression contre la Serbie, avoir soutenu la Serbie, et par derrière la Serbie, bien entendu, le gouvernement de Milosevic. Maintenant que Milosevic a été destitué...
Pardon, cher ami, qui oui. Nous
En tout cas, à partir du moment où les États-Unis... À partir du moment où les États-Unis... attaquaient avec les pays européens qui leur étaient inféodés la Serbie. La Serbie était désignée comme l'ennemi et donc le président Milosevic à l'époque était identifié, amalgamé avec la Serbie. Donc quand on défendait un peuple, le peuple serbe, on défendait aussi en même temps par ricochet qu'on aime ou qu'on n'aime pas Milosevic. Maintenant que Milosevic a été mis à la porte et que Kostunica lui a succédé, il est intéressant justement de voir comment la perspective européenne va pouvoir se conclure dans les mois qui viennent, puisque ça n'est plus à un vieux stalinien repenti, passé par différentes écoles et qui est aujourd'hui assez poussiéreux et assez grisâtre auquel on a affaire, mais à un homme neuf, un homme indépendant, et qui cherche pour son pays, à travers l'orthodoxie et de sa foi en orthodoxie religieuse, à travers son patriotisme, à travers son hostilité vis-à-vis du nouvel ordre mondial et de l'impérialisme américain, il essaye de trouver, apparemment, d'après les discours que l'on peut entendre ici ou là, un souci d'indépendance nationale et de justice sociale. Et c'est vrai que, avec le propos que je viens de lire du Figaro, où il parle de la Russie et de cette fédération possible un jour, peut-être européenne, où la Russie et la Serbie cohabiteront, peut-être que nous n'aurons plus la vie que nous émettons aujourd'hui sur l'Europe actuelle, qui est une Europe, comme le disait Yves Bataille, mercantile, une Europe marchande, une Europe pro-américaine. C'est pas une Europe qui nous plaît. L'Europe de Kostunica ou l'Europe de Poutine demain peut être une Europe qui nous satisfasse.
Ça, c'est le moins que l'on puisse dire.
Yves Bataille.
Disons qu'aujourd'hui, la Serbie dispose d'un meilleur jeu. Parce que, effectivement, on s'est servi de Milošević comme d'un épouvantail pendant des années pour diaboliser, sataniser tout un peuple et toute une nation. Ce qui montre d'ailleurs que l'ennemi, j'utilise le terme ennemi en termes schmittiens, le critère ami-ennemi.
De Carl Schmitt, oui.
Carl Schmitt. L'ennemi était de mauvaise foi et a complètement instrumentalisé le fait Milosevic. Parce que quand on se servait de Milosevic, on attaquait tout un peuple, mais on se fondait sur cette réalité du pouvoir de Milosevic et des socialistes serbes et de leurs alliés pour justifier toutes les agressions. Et par exemple, pour justifier aussi les tendances séparatistes au Monténégro. Or, aujourd'hui, le leader du Monténégro, qui a des tendances toujours séparatistes, continue à aller dans ce sens-là, malgré la mise à l'écart ou le retrait de Milosevic. Même chose pour les Albanais du Kosovo, séparatistes, qu'il s'agisse du trafiquant de drogue Tachi, soutenu par les États-Unis, et ou de Ibrahim Rugova, présenté comme le Gandhi des Balkans. Au passage, je voudrais dire quelque chose sur Rugova. Il y a quelques années, un ami syndicaliste de Force ouvrière reçoit une délégation de Yougoslavie en provenance du Kosovo. Et donc réception à Force ouvrière. Et Rugova fait tout un scandale parce qu'il y a de l'alcool. Bon, le Gandhi des Balkans, le modéré, le musulman laïque, eh bien, il fait toute une histoire parce qu'il y a de l'alcool et il exige que les femmes soit reçu dans une pièce différente. Ça s'est passé à Paris il y a quelques années, avant l'éclatement de la Yougoslavie. Voilà pour le Gandhi des Balkans. Donc, une nouvelle situation, un nouveau jeu, mais sur le plan géopolitique régional, le même morcellement et la même volonté de marche vers l'Est de la part de l'impérialisme global, de la part du messianisme démocratique, comme le dit l'un des auteurs d'un livre que je vous recommande, « Les États-Unis s'en vont-ils à la guerre ?» aux éditions complexes, sous la direction de Paul-Marie de Lagorce.
Oui.
Il y a un chapitre sur le messianisme démocratique de la superpuissance, de l'hyperpuissance de l'Ouest dominée par les États-Unis. Parce que on a posé la question avec le changement de gouvernement d'équipe à Washington. On a dit, est-ce qu'avec les Républicains, les États-Unis vont retirer leurs troupes? Et Richard Holbrooke, qui représente les États-Unis à l'ONU et qui était plutôt pour Al Gore, a dit, mais vous savez, tout ça sont des paroles électorales, mais en fait, rien ne sera changé. Parce que qu'est-ce qui domine aux États-Unis? C'est pas le président Potiche et son équipe, ça c'est pour le théâtre. Ce qui domine, c'est le complexe militaro-industriel, c'est l'industrie d'armement, ce sont les grandes puissances financières et un certain nombre de lobbies transnationaux.
Et l'administration du président de la République. Et l'administration du président de la République.
Oui, bien entendu.
Qui dirige tout.
Bien entendu, et le département d'État US, etc. Mais les États-Unis ont créé au Kosovo, à la frontière de Macédoine, parce que pour s'enfuir, il vaut mieux être près de la Macédoine. Il y a le port de Thessalonique qui n'est pas loin. Il vaut mieux être dans le sud-est du Kosovo qu'au centre ou à l'ouest. Ils ont mis les Italiens dans la zone la plus pourrie et dangereuse de la frontière avec l'Albanie, du côté du Monténégro. Et les Français au nord, près des Serbes. C'est peut-être pas plus mal, ça. Et donc ils ont constitué cette base énorme, la plus grande base terrestre depuis le Vietnam, à Bond Steel, qui est une base où les Américains vivent en autarcie, n'ayant aucun contact avec les indigènes. Bon, eh bien, ils n'ont pas créé ce genre de base pour partir à la faveur d'un changement d'équipe à Washington. L'objectif des États-Unis, c'est la conquête de l'Est européen. C'est la mainmise, la volonté de mainmise sur toute l'Europe, la petite Europe. C'est d'aller plus loin, c'est-à-dire d'attaquer la Russie le plus vite possible. Et pour cela, la région du Caucase est intéressante. Et l'Ukraine aussi. Parce qu'on oppose l'Ukraine à la Russie comme on a opposé la Croatie à la Serbie. C'est utile. L'objectif, c'est de démanteler la Russie, la Grande Russie, et c'est d'interdire la Grande Europe de l'Atlantique au Pacifique, la Grande Europe avec la Russie, parce que l'Europe ne se comprend pas sans
bien
la Russie
sûr,
aujourd'hui.
Bien sûr. Alors je rappelle juste que vous êtes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, au micro Arnaud Guyojanin. Je reçois aujourd'hui, pour parler de la nouvelle Serbie de Kostunica, Mila Aleković, président du conseil représentatif serbe pour la coopération avec l'État yougoslave, professeur de psychologie, et Yves Bataille, directeur de la publication de la lettre géopolitique. Alors effectivement, ce que vous nous dites, Yves Bataille, est intéressant, parce que finalement, si aux États-Unis rien ne va se passer avec la succession de Bush, en revanche, en Serbie, avec la succession de Kostunica, des choses vont changer. Et ce qui aussi importe, c'est de rappeler que l'Ucheka albanais en ce moment fait toujours des dégâts en ex-Yougoslavie et que Kostunica a le mérite d'appeler un chat et les Albanais de l'Ucheka des terroristes. Puisqu'il dit au Figaro, là aussi, pour les auditeurs qui n'ont pas pu se procurer l'article, je pense qu'il est intéressant de lire quels sont les propos du président Kostunica. Le président Kostunica dit: les terroristes albanais ont recours non seulement à leurs ressources propres au Kosovo, mais aussi à l'aide qu'ils reçoivent de l'étranger, par exemple, de manière secrète, des États-Unis. Faudrait que M. Kouchner entende un peu plus souvent ce genre de vérité.
Kouchner a fait son sale boulot, il s'en va. Il laisse, ça, la situation, en l'état, un Danois.
Un clone, probablement.
Oui, ça a failli être un Anglais nommé, un type qui était comme
lui,
d'ailleurs.
Il va longtemps rêver, la Serbie.
Mais l'Anglais n'en a pas voulu parce qu'il ne voulait pas passer après lui, du parti libéral-démocrate british. Oui, terroriste, bien entendu. Kostunica n'a pas changé de discours, de langage. Avant qu'il soit choisi pour être le chef de l'opposition, il attaquait en termes très rudes l'OTAN.
Tu te souviens qu'il n'a pas été invité à Bruxelles.
Il a attaqué les bombardements, bien entendu.
Oui, Mila Aleković précise qu'il n'a pas été invité à Bruxelles, effectivement.
Alors, c'était, oui,
et qu'il se permet toujours, d'ailleurs, de critiquer de manière très précise l'OTAN.
Oui, parce que l'Occident américano-centré préférait d'autres personnages, que je ne citerai pas, en l'état actuel des choses. Et Kostunica était assez marginalisé. Par exemple, lorsqu'il y a eu la coalition Zajedno, il en a fait partie, la coalition Ensemble, il y a 3-4 ans, et il en a fait partie et il s'en est vite détaché. Ce n'est pas un politicien. Je pense que ceux qui ont dit avec lui on va pouvoir faire ce qu'on veut, ont pris des risques.
Quand je disais tout à l'heure, Mila Aleković, nous, je disais le nous, le pronom nous, pour les Français et pour les Serbes qui ont résisté chacun de leur côté, à leur façon et à différents degrés, à l'agression contre la Serbie. Et sur Radio Courtoisie, oui, nous sommes l'une des rares radios, sinon la seule radio, qui avons résisté à la propagande hégémonique de l'Occident, qui a déversé le même message. Et si nous pouvons, à notre mesure, faire une contre-offensive médiatique et expliquer de manière plus précise quelles sont les vérités qu'il faut rappeler, eh bien je n'hésite pas à utiliser le « nous », que nous soyons Français ou Serbes.
D'ailleurs, je peux dire que la radio Courtoisie est connue à Belgrade, et non pas seulement à Belgrade, en Serbie. Donc, la vérité, c'est ça.
Ils peuvent même l'entendre maintenant avec le satellite, s'ils s'y abonnent. Ils peuvent entendre Radio Courtoisie à Belgrade ou ailleurs, en Yougoslavie.
Exactement. Ce qui est aussi important de dire, c'est que, comme on a signalé tout à l'heure, le personnage de Kostunica, c'est donc quelqu'un qui a une vision et qui aura surtout une vision. Et je crois que là, il y aura aussi une période de rassemblement du monde orthodoxe, dans un certain sens, même politique. Quoique, parfois, il ne faut pas mélanger les choses, mais comme Yves Bataille peut-être aurait dit, il y a une zone géopolitique orthodoxe aussi.
Et c'est la question que j'ai envie de vous poser, Yves Bataille, très sincèrement, Mila Aleković. Est-ce que le salut ne viendra pas de l'Est dans les années qui viennent? Parce que la Russie, d'un côté, avec Poutine, qui a été formé par le KGB, mais qui est revenu, mais entendu de son communisme juvénile, et qui aujourd'hui incarne l'aile identitaire russe d'un côté, et de l'autre, le président Kostunica, qui représente une volonté d'émancipation nationale en Serbie, ne se dirige-t-on pas vers deux pays à l'Est qui peuvent donner un nouveau souffle orthodoxe, identitaire et européen?
Moi, j'en ai toujours été persuadé.
Un patron dans votre radio, je ne serais pas content, qui a dit les orthodoxes ne font pas partie de l'Europe.
Vous savez, nous sommes tous à Radio Courtoisie,
orthodoxe chrétien.
Indépendant.
Il s'agit d'une droite.
Bien sûr, elle a oublié de dire chrétien.
La droite est multiple. Mais c'est quelqu'un qui n'aime pas les Grecs.
Personnellement, moi, je ne me définis pas comme de droite. D'ailleurs, je ne me définis pas non plus comme de gauche.
Ce qui est tout à fait droitier.
Ni à droite, ni à gauche. Oui,
c'est ce que
les gens de gauche disent ça.
Ce que disait le philosophe Alain. Le philosophe Alain disait, quand on me pose la question de savoir si tel homme politique est de droite et de gauche, je ne peux pas empêcher de me dire que la personne qui me pose la question est de droite.
Quelqu'un de droite, oui. Si vous, évidemment, vous avez fait un bouquin intitulé
Sur la droite, mais qui ne va pas dans la droite. Enfin, ça, c'est encore un
débat. Qui est d'ailleurs exposé à Belgrade.
Ça va être grâce à Mirailova. Ça va être grâce à l'ami Vladimir Dimitrievitch.
Grâce à notre ami Dimitrievitch.
De l'âge d'homme.
Oui.
Oui, je vous laisse poursuivre Yves Bataille.
Oui, de quoi parlait-on?
Justement, est-ce que l'orthodoxie et l'identité européenne à l'Est peuvent annoncer un souffle nouveau demain?
Moi, j'étais présent là-bas avant, évidemment, avant les bombardements, mais pendant aussi et après. Ces bombardements ont été très contre-productifs pour les Américains et même pour les Occidentaux, ce qu'on appelle l'Occident, Zapad. Parce que ça a suscité des mouvements de solidarité un peu partout, dans le monde slave orthodoxe, en Macédoine, en Bulgarie, en Roumanie. En Roumanie, il y a un changement, je ne sais pas si on s'en est aperçu, mais les deux principales forces politiques ne sont pas des forces du nouvel ordre mondial, même si Iliescu se dit social-démocrate.
Oui, mais enfin, c'est un néo-communiste qui reçoit de l'argent de l'Ouest.
Mais, alors, il faut faire la différence entre les communistes à l'Est et les communistes Jean-Robert Hue.
Oui, d'accord.
Les ex-communistes de l'Est ne font pas de la musique techno et ils ont une autre allure.
Cela dit, je pense que vous ne me démentirez pas, l'unanimité contre le candidat d'extrême droite en Roumanie, qui n'a d'ailleurs pas particulièrement ma sympathie, et qui a fait que tout l'Occident s'est mis à genoux devant le candidat néo-communiste, prouve en quelque sorte que ce candidat néo-communiste est social-démocrate, comme vous le dites, au niveau du fond de son programme, mais est aussi stalinien sur la forme à la répression.
Oui, je ne vois pas comment on peut être social-démocrate et stalinien en même temps.
Social-démocrate sur le fond. Et stalinien sur la forme, c'est-à-dire stalinien au niveau répressif sur la forme et social-démocrate sur le fond, libéral.
Je pense qu'avoir le candidat du parti de la Grande Roumanie contre lui, c'était la meilleure chose pour Iliescu, parce qu'à ce moment-là, il y avait un réflexe d'union, malgré les divergences et les ressentiments. Je crois que géopolitiquement, c'est une bonne chose, parce que l'homme s'avance avec l'étiquette social-démocrate, mais je crois qu'il a conservé quelques vieux réflexes de défense. Oui. Et c'est en cela que je dis que les communistes nationaux de l'Est sont un type humain qui n'est pas inintéressant.
Chez Poutine, par exemple.
Oui, mais lui ne se réclame.
Mais moi, chez Iliescu.
Il y a des différences, mais il faut faire une différence entre la formation et le projet politique.
Ce qu'il faut surtout, à mon avis, voir, les idées. Ce qu'il faut voir, je pense, Mila Lekovic, je vous donne la parole, c'est qu'il y a de nouvelles convergences dans le monde slave et dans le monde de l'Est, et qu'il y a d'un côté des partisans d'une certaine droite traditionnaliste, panorthodoxe, identitaire, qui peuvent s'allier à d'anciens communistes qui se sont reconvertis aujourd'hui, face à l'ennemi prioritaire et au seul ennemi primordial aujourd'hui, constitue l'impérialisme américano-occidental. Et que ça, ce sont des convergences et de nouveaux clivages qui s'annoncent à l'Ouest, à l'Est, qui ne sont pas connus à l'Ouest. Et c'est pour ça qu'on a tendance, quelquefois, à l'Ouest, à réagir un petit peu bizarrement quand on est un anticommuniste de vieille date, par rapport à ces communistes-là qui ne sont plus communistes, puisqu'ils ont compris que la dimension politique et identitaire et religieuse des peuples comptait avant tout plus que la lutte des classes et plus, même s'il reste,
ça, c'est anticapitaliste sur le fond. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, les théoriciens de cette malheureuse théorie, Marx et Engels, disaient toujours qu'ils ne connaissaient pas les pays slaves ni les pays de l'Est orthodoxes, n'est-ce pas? Ils ont fait pas mal d'erreurs, mais ils ont quand même avoué tous les deux, surtout le monde protestant, c'était ça leur fief. Mais je dirais que quand on parle de ça, il faut savoir une chose, le prosélytisme trotskiste n'a jamais eu dirais-je, n'a jamais été acceptée dans ces pays-là. Ça n'a jamais fonctionné, si vous voulez. Consciemment ou inconsciemment, il y a quelque chose qui s'opposait à ça. Maintenant, il faut dire que, moi j'ai écrit pas mal de choses là-dessus, parce que je crois que c'est un amalgame, psychologiquement parlant, dans les pays de l'Est, slaves. C'est pas tout à fait comme ici, les analyses ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur le sol voltairien pour faire ces analyses-là. Vous savez, donc, il y a une synthèse des ex-gauchistes, ça c'est évident, ou ceux qui croyaient être gauchiste, ça encore, il faut savoir ce que ça voulait dire et ce que ça veut dire aujourd'hui, et les traditionalistes qui ont d'ailleurs toujours existé et n'ont jamais cessé d'influencer l'opinion publique dans ces pays-là. Donc, en ce moment, vous avez vraiment une bonne synthèse. On ne se pose plus ces questions-là. Vous voyez, c'est
de
ça
manière
là.
De assez symbolique, vous Absolument. Avez par exemple en Russie, Edouard Limonov qui vient du Parti communiste, et qui est un ex-stalinien dur, et Alexandre Dougin, qui est un traducteur du Julius Evola ou de René Guédon, qui fait partie d'une certaine droite traditionnaliste, très orthodoxe. Et ils sont alliés aujourd'hui dans un même parti contre les États-Unis d'Amérique, contre le capitalisme marchand
et
contre la finance patrie.
Bien sûr, il y avait des modes aussi, des positions comme ça, symboliques. Il y avait de la coquetterie.
Le parti de Zhuganov, qui est beaucoup plus important, est sur des positions qui n'ont rien à voir avec les positions du communisme international.
Il y a en tout cas un même refus du mondialisme.
Et il y a un programme national chez tous. Alors, oui. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite au départ, parce qu'il faut procéder par la méthode d'élimination. Ce qu'on élimine tout de suite, et ce qui est éliminé, c'est le prosélytisme trotskiste. Déjà, une fois mis ça à côté, vous avez une situation plus claire. Je dirais tout simplement que dans ces pays-là, la transcendance a toujours existé. Encore une fois, le voltairisme n'a pas régné. Donc, une synthèse des traditionalistes, de ceux qui ont une vision, de ceux qui n'ont pas oublié sa tradition, et personne n'a oublié la tradition dans les pays slaves, ça je peux vraiment certifier, donne ce mélange qui est très intéressant et qui ne pose plus la question comme ici, parce qu'on n'est pas tout à fait dans le rationalisme,
pour aller dans le sens de ce que dit Mila, on a vu comment les trotskistes de mai 68 et de la période suivante se sont ensuite retrouvés dans les rangs de la social-démocratie parlementaire.
Ah bah d'ailleurs, dans les années 70, lorsque certains gauchistes traitaient l'extrême droite de bandes armées du capital, oui. On pourrait en dire autant aujourd'hui de même. C'est-à-dire que ce sont les trotskistes en France ou ailleurs qui sont aujourd'hui inféodés aux bandes armées du capital.
C'est un temps où on disait que les trotskistes étaient financés par l'intelligence service.
Ouais,
mais
ouais.
Je prends l'exemple de James Burnham, le théoricien américain, qui est auteur de très nombreux livres, notamment un qui s'intitule « Contre l'impérialisme soviétique ». Eh bien, James Burnham était trotskiste dans sa jeunesse, était un militant trotskiste américain. Eh bien, il est devenu l'un des principaux théoriciens de l'impérialisme américain. Et c'était l'homme qui avait une grande influence sur des gens comme Reagan et Bush numéro 1, le premier.
Mais la révolution de Lénine n'a-t-elle pas été financée par les Américains en 1917 hein? Déjà, il y avait ces prémices
entre
les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique.
Pour saboter un concurrent en devenir, et on a intérêt à fomenter des troubles, donc une révolution. Ça, c'est connu. Mais c'est le problème du bonapartisme, parce qu'après la révolution, il y a une reprise en main. Une révolution, c'est pas... Il y a une période de chaos, mais ensuite, il y a une période de serrage de vis, et surgit, sinon un homme providentiel, du moins un Bonaparte. Et l'évolution du communisme soviétique a donné certes une grande bureaucratie avec beaucoup de rouille, mais une vision d'empire.
Oui, enfin là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, parce que moi, je suis un anticommuniste de vieille date, et puis parce que je pense que ça n'était pas un empire, mais un impérialisme, et que l'Europe, malheureusement, a dû être occupée à l'Est par les communistes, à l'Ouest par les États-Unis, et qu'on ne doit pas, à mon avis, rentrer dans cette espèce de nostalgie qu'on pourrait avoir d'un modèle défunt que serait le communisme dans une nouvelle forme qu'il a pu être exprimé par la suite.
C'est pas une nostalgie, c'est la vision. Quand la droite défendait la liberté en Afghanistan, en fait, la droite agissait contre les intérêts européens. Et ils ont applaudi les Moudjahidines. Les Moudjahidines, ensuite, se sont retournés contre eux.
Il y a une stratégie d'instrumentalisation de la part des États-Unis pour neutraliser l'Europe, pour casser l'Europe, et pour faire en sorte de miser partout où ils peuvent, oui, en jouant la stratégie des dominos, pour essayer d'éliminer tous les partisans identitaires de l'Europe indépendante.
La droite disait, les Moudjahidines défendent l'Occident.
Il y a une droite réactionnaire et une droite bourgeoise qui s'est fait effectivement le complice de l'atlantisme. Mais je crois que nous ne devons tomber ni dans un excès de critique vis-à-vis de cette droite réactionnaire, ni dans un philo post-communisme qui, à mon avis, a été aussi critiqué et aussi critiquable
absolument
que la droite réactionnaire de l'époque.
C'est aussi mon avis, mais le monde ne se résume pas en un combat entre les communistes et les anticommunistes.
Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, et heureusement. Alors, il y a plusieurs questions et plusieurs remarques d'auditeurs, je vais vous les poser à la queue leu-leu, vous y répondrez si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Peut-on savoir dans quel Figaro a été publiée l'interview de Kostunitsa? Quelle date? Alors, c'est dans le Figaro d'hier, le mardi 19 décembre 2000, donc dans le Figaro d'hier, mardi. D'autre part, on pose une question, je pense que Milav Ekovic, vous allez être susceptible de pouvoir peut-être y répondre. Est-ce que le FMI va annuler la dette de la Yougoslavie de 1,7 milliard de dollars, comme elle l'a fait avec des pays africains et d'autres en Asie, et bien plus loin encore?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas?
Je crois que ça sera plutôt le scénario Russie et pays de l'Est. Pas tout à fait l'analogie avec les pays africains. Oui. On verra, de toute
façon.
Donc,
le grand danger, c'est ça.
Restons
vigilants. Évidemment,
dans
la mesure où la nouvelle République fédérale de Yougoslavie rejoint les grands organismes internationaux, il faudra faire très attention, parce que les grands organismes internationaux, on sait par qui ils sont dirigés, on sait à quoi ils servent. Ils servent à maintenir les États sous la dépendance et à gommer les souverainetés nationales. Alors, le FMI, la Banque mondiale, etc., ce sont des centres de pouvoir très dangereux, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de former un bloc balkanique.
En tout cas, la Serbie se débarrasse déjà des Berezovski. Chez nous, il n'y a pas ce problème-là, heureusement. On verra la suite. Je crois que la bonne analogie, c'est Serbie-Russie. D'ailleurs, c'est ça l'analogie, c'est pas l'Afrique.
Les États-Unis et l'Occident ne s'y trompent pas. Une autre remarque d'auditeur, pourquoi élimine-t-on si vite Monsieur Milosevic, qui est quand même le chef de l'opposition nationale? Alors là, bon, vous savez, d'un côté, on est traité de serbe bolchevique, et puis de l'autre, on est traité aussi de serbe bolchevique, mais pas par les mêmes. Ceux qui sont des contempteurs de Milosevic considèrent que c'est quelqu'un qui est absolument répréhensible, et les autres, au contraire, considèrent que c'est quelqu'un qu'il faut défendre. Moi, je dirais, pour ma part, en tout cas pour ce qui me concerne, que Milosevic a été mis à la porte, et c'est tant mieux, et que c'est Kostunica, l'homme de demain, qui va peut-être pouvoir, en Serbie, régler les différents problèmes et rester libre et indépendant par rapport au pays dans lequel il est actuellement.
Ce n'est pas compliqué. Milosevic est vivant, il est dans son parti. La suite, on la verra. L'important pour nous, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est de voir comment les choses vont tourner pour nous. Et est-ce que, d'ailleurs, on a déjà dit, les attaques sur la Serbie n'auront plus la même couleur. Et je dirais maintenant, inspiré par un auteur français très très classique et cynique, au sens noble du mot, nous on va regarder jusqu'où ce cynisme du monde va aller. N'est-ce pas? Parce que moi je suis persuadée que les attaques vont continuer, mais dans un autre sens. Mais on peut plus aller en arrière. On peut plus aller en arrière, et c'est une bonne chose. On va se battre pour notre dignité nationale, pour les alliances stratégiques avec les amis, et puis le reste, comme on a dit tout à l'heure, c'est la bataille psychologique et intellectuelle.
Il faut essayer, mais encore faut-il que les amis soient debout.
Eh ben, on va essayer d'être debout parmi les ruines.
Ah, ça, c'est que la Serbie reste brave et que la France redevienne.
Il y a une campagne qui est menée insidieuse en ce moment sur l'affaire des prisonniers albanais en Serbie. Et on ne parle jamais de plus de 1000 Serbes qui ont été enlevés depuis l'arrivée de l'OTAN, de la KFOR au Kosovo. Il y a plus de 1000 Serbes qui ont été enlevés dont on n'a aucune nouvelle.
Bon, écoutez, c'est une question et en même temps une information que vous nous divulguez, qu'il faut poser, qu'il faut faire. Mila Jovovich.
Je dirais aussi que tous les Serbes sont tout à fait conscients que les plans Marshall ont été faits pour détruire, pour reconstruire après. On sait très bien ce qui nous est arrivé. On n'est pas dupes. Bon, alors, on regardera le cynisme du monde, mais maintenant dans une autre position de force. Et je ne sais pas, est-ce que c'est la fin?
Si, c'est la fin. Nous avons encore 3 minutes.
Je voudrais dire quelque chose. Vous savez ce qu'on raconte en Serbie. On dit, c'est une petite anecdote, on dit il y a deux présidents, deux hommes politiques dans le monde, dont qui n'ont pas été infiltrés par les grands lobbies et qui n'ont pas subi le choix des femmes des grands lobbies. Ce sont le président Vladimir Poutine et le président Koštunica.
Bien.
Voilà, pour regarder le cynisme du monde avec un gourdin à la main.
C'est une note finale, vous aussi, Yves Bataille, qui nous convient tout à fait. Je vous remercie, Mila Lekovic. Je vous remercie, Yves Bataille. Vous pouvez peut-être rappeler, Yves Bataille, les coordonnées de la lettre géopolitique pour qu'on puisse vous écrire et s'y abonner.
Alors, 83.
83.
Rue.
Rue.
Traduit en français. Kneza Milosha. Kneza K-N-E-Z-A. Plus loin, Milosha. M-I-L-O-S-A. 11 000, Belgrade, Serbie, Yougoslavie.
Alors, vous aurez une trentaine de pages dans une lettre géopolitique extrêmement bien faite, très précise et qui vous renseignera sur tout ce qui se passe en matière de géopolitique, que ce soit en Serbie, en Russie, au Proche-Orient ou ailleurs. Répétez-nous, Yves Bataille, les coordonnées.
La lettre géopolitique, 83 Kneza Milosha, K-N-E-Z-A, plus loin M-I-L-O-S-A, 11 000, Belgrade, Serbie, Yougoslavie.
Voilà, et puis je conseille donc aux différents auditeurs de Radio Courtoisie qui n'auraient pas pu lire l'entretien avec le président Koštunica qui s'intitule « Milosevic a signé son arrêt de mort politique » dans le Figaro du mardi 19 décembre 2000, d'essayer de se le procurer, de le demander au Figaro, car il s'agit à mon avis d'un entretien extrêmement important et qui sera, j'espère, préfigurateur de l'action à mener de Koštunica dans les mois et années qui viennent. Nous souhaitons en tout cas pour notre part la bienvenue au président Koštunica demain à Paris et espérons qu'il mènera une politique qui en Serbie sera un petit peu différente que la politique que Jacques Chirac nous fait subir en France. Merci chers auditeurs, merci Mila Lekovic, merci Yves Bataille, merci à Michel Marmin qui est intervenu en tout début d'émission et qui, je le signale, a publié un petit ouvrage extrêmement bien fait et très intéressant de poèmes, Chemin d'ailleurs et de Damas, aux éditions de l'Âge d'Homme. Merci, chers auditeurs, pour vos questions et vos remarques. Il y en a d'autres qui arrivent et qui vont apparemment dans le sens de ce que nous avons dit, alors je m'en félicite. Merci, chers auditeurs, et à la prochaine fois. Merci à Serge de Beketch. Merci à Serge de Beketch de m'avoir accueilli. Et Yves Bataille, un dernier mot.
Une salutation distinguée.
Merci.
Dovidjanya.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 20 décembre 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 21 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30.